Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend, 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin.
Bonjour à tous et bienvenue sur le 177e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 9 janvier et ce soir nous allons parler bien sûr de Marvel, DC et de l'Indé pour notre semaine de review comics, avec entre autres chez Marvel beaucoup de nouveaux titres, le All New Marvel Point One, le Avengers World numéro 1, le Black Widow, le Revolutionary War et le All New X-Factor. Dans la partie Indé, nous reviendrons sur X-Files, Shaolin Cowboy ou encore The Walking Dead. Et enfin, chez DC, le Detective Comics 27, la grosse sortie de chez DC de la semaine, ainsi que le Batwing et le Earth 2. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine pour vous présenter tous ces nouveaux comics, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Et Mister René Bonny.
Bonsoir à toutes et tous, et bonsoir Flo.
C'était la bonne blague. Non, Flo n'est pas là ce soir.
Non, il n'est pas là. Il fait sa rentrée plus tard.
Il a pris une semaine de plus. Allez, on commence par Marvel avec la grosse sortie de la semaine. C'est le All New Marvel Point One numéro 1. Qui ne sera qu'un numéro 1 puisque c'est un one-shot. Même système que les précédents, un one-shot qui présente un peu toutes ces nouvelles séries. Bruno, tu vas nous en parler.
Oui, tout à fait. Donc, nous avons 6 petites histoires. Nous avons une histoire qui est centrée sur Loki, avec Halley Wing au scénario et Lee Garbett au dessin. Une histoire de Silver Surfer.
Même... Oui. Attention, blague, je dirais même une histoire centrée sur Lock and Key.
Putain, mais t'aurais dû te taire. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, on a également du Silver Surfer, écrit par Dan Slott, avec Michael Allred au dessin, du All New Invaders, avec James Robinson au scénario et Steve Pugh au dessin, Black Widow par Nathan Edmondson et Phil Noto, Miss Marvel par Willow Wilson et Adrian Alfona, et enfin, une partie qui concerne Avengers World, écrit par Nick Spencer et dessiné par Rax Morales. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a un fil rouge, un petit peu comme les précédents numéros, qui tourne autour d'une histoire de Loki, qui essaye de mettre la main sur une épée asgardienne magique.
Et des clés surtout.
Et des clés, oui. Et pour ça, il a besoin effectivement de récupérer des clés. Donc on le voit un petit peu essayer d'arnaquer des gens pour récupérer ces fameuses clés. Et c'est l'occasion, à travers la narration, de passer en revue un petit peu les futurs titres All New Marvel Now.
Je trouve que c'est pas forcément super connecté, hein. C'est vraiment une page qui s'intercale comme ça.
C'est pas très connecté. Mais
pas du tout, au fait, ouais.
Ce qui est intéressant...
Néanmoins, c'est la meilleure histoire pour moi, mais bon.
Ah, je suis pas d'accord. Enfin, pour l'instant, il y a un truc sympa. Alors après, faudra confirmer avec la sortie, par exemple, du Silver Surfer numéro 1 ou de All New Invaders. Mais ça a l'air d'être des petits bouts d'histoire, encore une fois, inédites. Puisque, par exemple, pour Black Widow, on retrouve pas ces pages dans le Black Widow numéro 1.
Normalement, c'est censé être de l'inédit. La seule chose qui n'avait pas été inédite jusqu'à présent, c'était les Gardiens.
C'était le Gardien, ouais, tout à fait.
C'était donc, le seul titre. Et encore, ils nous avaient joué en disant « Ouais, d'accord, les pages ne sont pas inédites, mais le premier numéro fait 28 pages au lieu d'en faire 20. » Ouais, mais enfin, il y avait 8 pages de reprint, donc bon.
Graphiquement, je trouve que là, c'est vraiment une équipe très solide. On a que des bons dessinateurs, je dois dire. J'ai apprécié toutes les différentes parties. Et il se trouve que moi, j'ai trouvé que c'était plutôt des titres qui m'intéressent, en plus que j'avais envie de commencer avec le All New Marvel Now. Et ça met bien dans le bain directement pour chacun. Que ce soit par exemple pour Miss Marvel, où on voit vraiment le ton qui est donné, qui rappelle un peu les Runaways. Donc c'est vrai qu'avec les dessins d'Alfona, ça fait penser aussi, ça c'est clair. Mais comme pour par exemple le New Invaders qui pose les bases d'une histoire, je m'attendais pas du tout à ça pour New Invaders.
Pourtant, on en avait parlé dans les weekly de l'histoire, monsieur. Les
bah oui,
news.
Mais tu vois, et là c'est quand même un petit peu.
Alors
petit
Bruno
peu chelou,
Benny, même combat, vous oubliez les weekly news.
Ouais, mais j'étais peut-être pas dans celui-là, mais et donc du Phil Noto sublime sur Black Widow. Enfin, j'y reviendrai un peu plus tard, mais moi j'ai trouvé ça vraiment cool à lire et par rapport au précédent Point One, celui-là je trouve qu'il vaut le coup.
Alors toi, t'as pas du tout le même avis, Benny.
Oui, moi je me suis vraiment fait chier à la lecture de ce truc qui est quand même très long du coup à lire comme tous les numéros point one.
On va pas se
Non,
plaindre.
enfin j'ai lutté pour pas m'endormir sur ce truc et pour en arriver au bout. Et il y a vraiment très peu de titres qui m'intéressent là-dedans. Ça me donne pour la plupart, ça me donne pas du tout envie d'aller voir les numéros 1. Alors c'est un petit peu gênant parce que en plus c'est censé être le but. J'ai encore moins, si tu veux, envie d'aller voir les numéros 1. Après l'avoir lu, si j'avais pas lu le point one, j'aurais tenté le numéro un de plusieurs de ces titres. Là, je pense qu'il y en a plein que je ne tenterais même pas ayant lu le point one. Et les seuls qui m'ont intéressé, c'était Silver Surfer. Justement, je trouvais ça sympa, donc avec le surfeur qui est dans cette espèce de Venise de l'espace, avec sa dulcinée. Voilà, donc Dan Slott et Michael Red, du coup,
Attends, attends,
comme équipe.
petite rectification, c'est pas du
Ouais.
tout sa dulcinée, hein, c'est juste une fille qui l'accompagne.
Oui, bon, enfin,
Non, non, c'est
enfin.
pas du tout, enfin, il n'y a pas du tout d'éléments amoureux.
Ouf,
Oh
bah,
non, non, non,
généralement,
non.
quand t'amènes une nana comme ça à Venise, bon, bah, je sais pas, enfin, j'imaginais que.
Il la tient par la main et il lui met sa main dans
Il
le
la tient
dos.
par la main, ouais, enfin,
Ah non,
moi
non,
j'ai vu
non,
ça
non, il
comme
n'y a pas
ça.
du tout d'éléments amoureux vis-à-vis du Silver Surfer. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vraiment pas compris comme ça.
De toute façon, il a pas de quéquette.
Et c'était
Ah,
normalement, c'est le
yeah.
bah, par rapport à la dernière série Silver Surfer où il avait justement récupéré cette gamine qui partait avec lui.
Oui, bah moi je pense qu'il y a moyen, même si que tu me dis que c'est une gamine, ce qu'on dirait pas, hein, d'ailleurs, par rapport à ce qu'on en voit là, je sais pas quel âge elle a, mais
Bah,
bon.
elle est pas majeure. Elle est
Bon,
pas
bah
écoute,
majeure, je pense
putain,
pas.
j'aurais pas cru en lisant le comics parce que.
Ouais, mais le Silver Surfer n'a pas d'âge. Voilà.
Et il a pas de cheveux.
Et voilà, il a une tête, bon, voilà. Hein, c'est un peu
Meilleure vanne du
limite.
bouquin, quand même.
C'était bon.
Enfin, quoi que, ex aequo avec celle par rapport à Thor et Loki.
Ah,
Ouais, c'était bon, ça.
moi j'ai bien aimé au fait ça m'a donné un bon aperçu je m'intéresse à cette série Silver Surfer et puis sinon bah les autres alors attendez je me souviens même plus d'ailleurs à force qu'est-ce qui m'a vraiment branché bah pas grand-chose quoi les Invaders bof ça m'a un peu ennuyé Black Widow vraiment sans plus la nouvelle Miss Marvel mais alors pas du tout
C'est vrai?
intéressé
Bah, bonne surprise pour moi, je m'attendais à
hein,
de la merde
c'est
parce que ça m'intéressait pas du tout et franchement, enfin, le pitch et le fait d'avoir une nouvelle Miss Marvel, je trouvais l'idée très conne. Un peu, voilà, je vais pas dire rassuré parce que j'en attendais rien, donc, mais un peu surpris, j'irai peut-être jeter un œil au premier quand même.
Ouais,
Du
puis
coup.
on comprend, enfin, on nous a dit voilà que je crois l'auteur est pakistanaise. Elle va un peu focaliser aussi son histoire sur justement le choc des cultures entre bah, d'une famille musulmane et les Américains lambda. Et on sent bien ça déjà dans les premières pages. C'est plutôt bien fait, bien amené, et les dessins sont sublimes, je trouve.
Ouais, mais ouais.
Moi, pour ma part, bah, comme je disais, l'histoire de Loki, c'est celle qui m'a le plus intéressé, parce qu'il y avait ce ton, cet humour que j'ai trouvé très sympathique et ces différentes situations. Ensuite vient, mais très très proche, à, on va dire presque ex aequo, celle du Silver Surfer, que j'ai trouvé très bonne, bien sûr. Et puis l'histoire des All New Invaders, qui me donne l'impression d'avoir un plan bien tenu. En même temps, c'est du James Robinson. Et s'il arrive à égaler ce qu'il a fait sur Earth 2 en termes d'intérêt, je pense qu'on a une très bonne série Marvel. Reste à voir si elle se vendra, vu le nombre de séries qui y débarquent. C'est assez autre chose. Mais sinon, ouais, le bon point one. Moi, ce qui me fait peur, c'est que quand on regarde le dernier point one, l'histoire de Loki était très intéressante. Et bah, c'est avéré dans Young Avengers que ça n'avait rien à voir. Et je n'ai pas retrouvé du tout le ton de ce qu'on avait vu dans le. Bah, c'était le Marvel Now Point One à l'époque. Donc j'ai été un petit peu déçu. J'espère que ce qu'on a vu là, dans ce All New Marvel Point One, restera bien dans le ton de la série Loki Agent of Asgard. Waouh, ça vous a.
Non, non, mais oui, tout à fait, je suis d'accord. Bon, ça s'annonce assez frais, cette nouvelle série Loki. Je pense que ça partira sur les mêmes bases.
Bon, après, bon, les autres petits segments, c'est en dents de scie, franchement.
Le moins bon, j'ai trouvé, c'était quand même celui de Avengers World,
Bah, il est super chiant.
qui est pas terrible, pas très bien dessiné.
Puis alors l'idée est déjà vue 15 000 fois auparavant. Donc bon, j'ai même cru, moi, au fait, que ça annonçait une série de tandem avec Cannonball et Sunfire.
Ouais, qui
Non, c'est
s'appellera
pas
les New
Sunfire.
Mutants.
Non,
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 c'est
mais
pas Sunfire,
juste les
c'est
deux.
Sunspot.
Sunspot, voilà. Sunspot et Cannonball, je pensais qu'ils allaient avoir un titre juste tous les deux, en fait. Et j'ai même pensé ça pendant un moment. Et puis au fait, à la fin, j'ai vu dans le sommaire, donc puisque le truc est à la fin, en fait, les crédits sont à la
Bah,
fin.
comme le précédent.
Ouais. Et comme bon bah voilà, j'ai pas regardé avant, je me suis rendu compte que c'était juste pour parler d'Avengers World et bon, ça me donne pas du tout envie d'aller lire Avengers World non plus. Non, franchement, au-delà du Silver Surfer, moi y a rien qui m'a vraiment captivé là-dedans. Et j'ai préféré même l'ancien numéro Point One qu'on avait eu avant avec les Gardiens, Nova, enfin qui annonçait ces titres-là, quoi.
Oh bah non, enfin non.
Oh bah non.
Non. Moi je trouve celui-là vraiment bien au-dessus, mais
Ah, les goûts et les couleurs. On va
ouais.
passer aux notes, messieurs.
Alors bah pour moi c'est un bon gros bail, donc pour 6 € on a 60 pages de
Ouais.
BD à peu près.
J'allais rappeler le prix là, c'est 5 €, 5,99 $ pour la version régulière.
Ouais.
Vous avez une version aussi à 8,99 € avec un poster de Salvador Larroca.
Ah ouais, d'accord, ok.
Mais bon, le prix régulier est à 6 $, c'est plus gros, mais il y a une cinquantaine de pages.
Salvatore Larroca en slip, hein, sur le poster.
Si c'est le poster de la couve, c'est pas terrible, parce que la couve, c'est pas le meilleur du comics.
Tenant un pot de guacamole.
Non, c'est vraiment un poster de lui. Voilà.
Hein.
De lui qui pose. C'est Salvador Larroca, voilà, c'est lui.
Benny, ta note?
Ah oui, pardon, bah non, bah moi pour moi ce sera juste un. Franchement, non, j'ai même envie de dire un pass parce que pour moi c'était inutile.
D'accord.
J'aurais préféré même ne pas le lire et découvrir les séries directement avec les numéros 1.
Bah moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas pour Black Widow et Avengers World, puisque j'ai lu le All New Marvel Point One juste après. Je l'ai lu dans le mauvais sens. Bon, peu importe. Honnêtement, peu importe. Pour ma part, ce sera un check-it plus. Allez, check-it plus. Ça vaut le coup justement pour prendre la température de ces nouvelles séries et voir finalement si on va les tester ou non. Et ça peut peut-être justement vous refroidir comme ça a fait pour Bunny, vous donner encore plus envie ou voire même vous intéresser à des titres que vous auriez zappés. Donc pourquoi pas. Et effectivement, c'est pas si cher que ça, 6 $ pour une cinquantaine de pages. Voilà. Allez, on continue avec la première nouvelle sortie de la semaine. C'est le Avengers World, écrit par Jonathan Hickman et Nick Spencer. Et c'est dessiné par Stefano Caselli. Alors moi, ça m'a fait plaisir de voir du Stefano Caselli revenir sur un titre Avengers, déjà. Je l'ai trouvé
Ouais.
très bon sur ce titre, honnêtement.
Oui, plutôt cool.
Maintenant, l'histoire, ça part un peu dans tous les sens et ça me fait craindre le pire. C'est le problème. On a donc, tel que ça avait été annoncé déjà dans le All New Marvel Point One et puis ce qui nous avait été teasé les semaines précédentes, les Avengers qui se rendent disponibles vis-à-vis du Shield pour régler les conflits de partout dans le monde. Tout simplement. Et donc, par petits bouts d'équipe, hein, puisque rappelons qu'ils sont 24. Normalement, les Avengers sont à 22 pour le moment. Eh bien, ils vont aller se dispatcher par groupe de 3 ou 4 pour régler les petits conflits que Maria Hill va lui indiquer. Donc, idée pas franchement neuve, honnêtement. Et
Ouais.
bah, on va avoir plusieurs petits conflits qui vont débarquer. On a un conflit sur la côte est des États-Unis avec carrément des vents violents, des ouragans, des tornades, des raz de marée, tout ça en même temps.
Un conflit entre Donald Duck et Howard, le fameux conflit de canard.
Oh putain, oh putain,
Oh
celle-ci elle était préparée, je le sens qu'il cherche un moment pour la placer, celle-ci.
voilà.
On a un autre conflit qui se passe à Madripoor. Bien sûr, Madripoor is burning. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
En Italie. En Italie, à
En Italie,
Venetaille.
oui, c'est l'Italie, voilà, ça, je cherchais l'endroit. En Italie où tous les gens d'une ville ont disparu. Et puis, sur la. Il y a un autre conflit encore, j'ai oublié.
Oui, c'est
Ah oui,
l'île de l'AIM.
l'île de l'AIM, moi, mais qui est relié avec le truc qui se passe sur la côte est des États-Unis. Voilà.
Barbuda.
C'est sympa, mais j'ai trouvé ça un peu brouillon, finalement, dans la narration, personnellement. Et ça, d'ailleurs, ça
Ouais.
doit se ressentir dans mon résumé.
C'est clairement un épisode prologue qui nous place les intrigues à venir. Ça peut paraître un peu téléphoné, voilà, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, même écrites par Hickman et Spencer quand ils étaient sur Ultimates. On avait un épisode exactement pareil avec Nick Fury dans l'hélicarrière du Shield et qui voit plein de menaces à différents endroits. Donc c'est exactement la même façon de procéder. Mais par contre, c'est la nature des menaces, moi, qui m'ont intéressé. Que ce soit celle justement qui se passe en Italie, là, qui a l'air assez mystérieuse, ou encore Madripoor avec un truc complètement what the fuck.
C'est on sent peut-être encore même un peu trop gros, quoi.
On sent encore l'influence Pacific Rim, effectivement.
Exactement, mais j'ai senti exactement la même chose.
Mais voilà, et puis non, bah, toujours cette...
Moi, c'est pas ce qui m'intéressait le plus hein, vis-à-vis de Madripoor, c'est quand même le nouveau chef de la main.
Oui, il y a plein de petites choses qui sont
alors,
expliquées.
Là, il va falloir revenir à ce que nous avait écrit Nick Spencer il y a de ça quelques années maintenant. Il avait beaucoup géré ce personnage-là. Et ça me fait plaisir de voir un personnage aussi puissant prendre le contrôle d'une organisation aussi importante. Mais il va falloir donner quelques explications.
Je vois pas du tout de qui vous parlez, mais...
Ah bah oui, mais je vais laisser le suspense.
Ouais. Non, mais alors, moi par contre, je me permets de dire que je n'ai pas lu justement ce titre.
Pourquoi tu parles ?
Parce que je l'ai feuilleté, et avoir encore le Shield, j'en peux plus. J'en peux plus du Shield dans les titres Avengers, et puis même partout, quoi. Le Shield, on voit que ça. Alors je pense que, bien sûr, c'est à cause de la série télé, donc il nous faut du Shield
et puis
partout.
Et puis le film.
Oui, les films, mais franchement, j'en peux plus. Sérieusement, là, il y a quelques années, le Shield, on se demandait même à quoi il servait. C'était limite ridicule, on le voyait jamais. On entendait parler vaguement de Nick Fury, d'un certain Nick Fury, on savait même pas où est-ce qu'il était. Et là, maintenant, c'est tout le contraire, le Shield est partout, et honnêtement, j'en peux plus. Alors, ajoutez à ça que c'est encore un autre titre Avengers, maintenant, il y a que ça, j'ai l'impression, chez Marvel. Il y a les X-Men, les Avengers, point.
Enfin, pour moi, ce titre, on peut vraiment le prendre plus comme une suite de Secret Avengers, comme c'était justement déjà Nick Spencer qui était sur le titre, et que ça se focalisait beaucoup sur l'AIM et toutes les manigances politiques là-dessus. Là, on sent qu'on va revenir encore dessus à fond. Maintenant que Secret Avengers est passé dans les mains d'un autre scénariste, bon, voilà, c'est la suite logique, je trouve, Avengers World.
Ça devient très compliqué si tu veux trouver la suite de telle ou telle série. Qu'est-ce qu'il faut lire ? Enfin, dire bon.
Mais oui, voilà, comme tu l'as dit, Bruno, c'est la réflexion que j'allais faire. C'est véritablement ce qu'a fait Nick Spencer, donc toute la branche Secret Avengers, mélangée aux Avengers d'Hickman. Cependant, j'ai noté quand même un gros problème de timeline. C'est que dans l'épisode d'Avengers qu'on avait lu la semaine dernière, non, il y a deux semaines, pardon.
Ouais.
Il y a deux semaines, Captain America dégageait Wolverine des Avengers. Que fout-il dans ce numéro ?
Tout à fait, ouais. Bah, ils ont oublié de l'effacer, tu sais.
Ouais, oh là mais... là. Voilà, je veux dire, Hickman n'arrive même pas à se... Alors déjà qu'Hickman n'arrivait même pas à respecter la continuité de ce qu'avaient fait d'autres, hein, notamment dans Uncanny Avengers avec Rick Remender et le Pic qui n'avait aucune mention de sa destruction, qui pourtant était une part importante du scénario de Remender. Là, Hickman oublie lui-même qu'il a enlevé Wolverine de l'équipe. Alors certes, il n'y a pas Spider-Man, mais merde quoi, enfin... Faut faire un petit peu gaffe. Là, c'est encore une fois l'éditeur qui n'a pas fait son boulot correctement.
Et puis Wolverine, c'est un peu le gros problème en ce moment, parce qu'entre son titre, dans lequel il lui arrive des trucs de fou...
Bah, il a plus son pouvoir auto-guérisseur.
Et voilà, c'est hyper mal géré, on a l'impression, son intégration dans les différents titres. Et, ça aurait été le moment, justement, d'en profiter pour l'enlever. Et ouais,
c'est vrai que c'est au départ, hein, c'est ce qu'il prévoyait de faire dans Avengers tout court, mais...
C'est chiant qu'il l'ait laissé, là. Après, ce sera peut-être que pour le premier arc, mais...
Oui, mais enfin, ça pose un problème. Cet épisode est sorti deux semaines après. Faire la gymnastique mentale, ça va 5 minutes, mais là, il n'y a aucune référence. Enfin, pour moi, c'est un problème. D'ailleurs, quand je l'ai vu dans le récap des personnages sur la première page, j'ai fait « Oh, putain !» Effectivement, il a une part importante.
Puis, j'ai aussi un problème aussi avec un autre truc, c'est un numéro 1 par deux auteurs. Et là, je me dis, est-ce que c'est pas le signal d'alarme comme quoi, vraiment, ils sortent trop de titres pour que dès le numéro 1, il y ait deux auteurs sur le même titre.
Ah, mais c'était prévu.
Oui, d'accord, mais ça m'interpelle toujours, quoi. C'est le genre de truc qui m'interpelle. Je me demande jusque quand ça va fonctionner, puisque tous les deux, enfin, peut-être pas Nick Spencer, mais en tout cas Hickman, il est overbooké.
Mais Nick Spencer était déjà venu aider Hickman sur Avengers. Sur Avengers.
Enfin bon.
Moi, voilà, ça m'a pas gêné, ça. Non, moi, ce qui m'a gêné, c'est la couverture de merde de Cassadé, mais. Qui est faux. Qui est dégueulasse pour un numéro 1, je trouve que ça donne vraiment pas envie d'acheter le comics avec un Hulk. Je crois que c'est le plus moche dessin d'un Hulk jamais vu de tous les temps sur un comics. Mais
bon, t'exagères un
peu. Tu vas fort.
Hein. T'exagères un petit peu quand même.
Ouais, tu vas fort parce que je pense qu'on en a eu des sacrément moches.
Demande c'est à Robin. C'est vrai que sa Spider-Woman est quand même.
Ah, puis elle est horrible. Elle est horrible.
Elle est pas de très bonne facture. Non, puis bon, ce gros bandeau rouge en bas, ce gros carré rouge en haut. En plus, la terre rouge derrière le Avengers World, ça fait un peu trop de rouge sur la cover. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui cloche sur cette cover et ça vient pas que du dessin.
Enfin bon.
Bref. Mais un peu décevant. Moi, pour moi, c'est vraiment un peu décevant. C'est sympa quand même, mais c'est un peu décevant. J'en attendais plus.
Moi, t'étais plus méchant que ça avant le podcast. Hein.
Oui, moi, je trouve que c'est un bon petit prologue.
Moi, clairement, enfin, j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine pour lire. Il a fallu que je boucle tout en une heure et demie, et je m'endormais en plus à moitié devant cet épisode, donc ça n'a pas aidé.
Moi, je trouve que c'est un bon prologue. Après, je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'on parte plus sur le côté galactique à la fin d'Infinity.
Exactement.
Avec justement le fait que les mondes au-delà de la Terre se rallient aux Avengers. Pour l'instant, on retombe encore sur des intrigues qui vont se passer sur Terre, au moins dans ce premier arc.
Ouais, mais enfin, ça m'étonne moins, puisque, à mon avis, la suite de tout ça, ce sera dans Avengers tout court.
Non, ce sera dans Avengers Worlds, et c'est là qu'ils iront dans la version spatiale, non, mais...
Non, Avengers Universe, t'as pas compris. Ouais.
C'est possible.
Non, mais c'est vrai que moi aussi, comme toi, Bruno, je m'attendais à ça, et même si on savait très bien que ça allait se passer sur Terre avec ce qui avait été annoncé, mais j'avais espéré qu'on puisse aller dans l'espace un peu et changer.
Bah, surtout qu'ils nous font quatre intrigues, ils auraient pu en faire une un peu spatiale. Mais bon, après, j'ai trouvé ça quand même plutôt sympathique.
La véritable question, j'attends de voir le aussi, 2 quand même. C'est est-ce que le titre est justifié, justement, Avenger World? Oui, concrètement.
Bah, oui, là, ils sont aux quatre coins du monde.
Ils vont partout, ils sont aux quatre coins du monde, donc oui, clairement.
Oui, mais d'habitude, ils vont pas partout? Ils allaient même sur Mars à un moment donné, et bon...
Remarque, oui, c'est vrai qu'avec le début du Ron Dickman, et quand tu regardes ces espèces de trucs qui tombaient sur Terre, là,
J'ai envie de te dire, ils vont partout depuis toujours, les Avengers.
Les jardiniers, là, qui envoyaient les trucs.
Les gardeners.
Qui envoyaient les frites.
Non, mais je sais
Ex nihilo.
Ex nihilo et toute sa bande de jardiniers. Excuse-moi, qui ont cultivé la Terre, quoi. Ouais. Qui avaient envoyé des trucs un peu partout. Enfin, je veux dire, les Avengers allaient intervenir en Australie, au Canada, etc. Enfin, c'était déjà un peu Avengers World, quand même.
Ouais.
Ouais, et puis même depuis des années, hein, ils se sont jamais cantonnés aux États-Unis. Hein.
Oui, mais on essaye d'analyser. Enfin, j'essaie d'analyser run par run, puisque maintenant il faut le faire comme ça avec le run d'un auteur. Et même déjà avec le début du run Dickman, c'était déjà un peu le cas. Donc espérons que du coup, ce soit Avengers tout court qui change un peu de direction. Ça avait l'air un peu bien parti avec le premier épisode qu'on a lu il y a 2 semaines. Bon, on va voir. Je reste quand même un peu déçu, je vais mettre un bail quand même, mais un petit bail. C'est pas le gros bail de la semaine, loin de là.
Petit bail pour moi aussi.
On va passer à toi, Mr. René Bunny, qui va nous parler d'une nouvelle série là encore. C'est le All New X-Factor numéro 1.
Et ouais, parce qu'il n'y a pas que des choses toutes pourries qui sortent chez Marvel. Il y a aussi des bons trucs.
Espèce de troll.
Je plaisante. Alors,
je dirais même des choses toutes pourrites.
Ouais. Et puis et puis tu fais bien de me corriger. Et il y a pas que le Shield aussi. Hein. Voilà, il y a pas que le Shield partout. Il n'est pas dans X Factor. Donc
il y a aussi le Sword. En plus du Shield.
On pourrait croire en plus que la dirigeante du Sword, dont j'ai oublié le nom, est dans ce All New X Factor puisqu'elle ressemble sur la couverture à s'y méprendre à Polaris. Polaris. Hein. C'est pas c'est pas la jambe ronde. Hein. C'est Polaris qu'on voit sur la couverture. Donc Peter David est au scénario et Di Giandomenico est au dessin et j'ai oublié son prénom. Carmine Di Giandomenico. Voilà. Avec
un accent italien à la 6. Toute beauté.
Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire donc ce titre, du coup, pour ceux qui n'auraient pas lu X-Factor, c'est pas grave du tout, puisque ce n'est pas du tout la même chose que la précédente mouture d'X-Factor. Tant mieux, hein, Peter David se lâche tout autant, par contre, c'est très très bon. Alors, au fait, il y a une espèce d'entreprise un petit peu particulière qui s'appelle la Serval Industries, qui recrute.
Qui pour nous a une résonance toute particulière.
Et oui, et puis en plus, le plus drôle dans cet épisode, c'est que Gambit se fait recruter dès les premières pages, par justement Wolverine qui vient le chercher. on se dit
il y aura peut-être un twist.
En fait, non, c'est ça, non mais c'est je pense Wolverine pas non mais en fait il... Non, ils expliquent bien ça dans l'épisode. En fait, ça n'a effectivement aucun lien avec Wolverine directement. C'est juste, voilà, bon, pour nous, effectivement, c'est un hasard. Ils expliquent d'ailleurs ce qu'est un serval, hein. C'est une espèce de bête qui vient d'Afrique. Donc, rien à voir avec la bête aussi qu'on trouve au Canada, je sais plus comment ça s'appelle.
Bah le Wolverine, mais le...
Le Wolverine,
le
voilà.
vrai, oui.
Le vrai Wolverine, voilà, celui qui est bien canadien. Donc c'est dans la traduction française, je sais pas pourquoi ils avaient mis Serval à l'époque, alors que c'est un truc africain. Bon, enfin bon, bref. Qu'importe. Et bah déjà, dès les premières pages, c'est super drôle. Peter David nous écrit un gambit, enfin un gambit intéressant. Plein d'humour, qui est vraiment dans son personnage de beau gosse un peu déconneur, mais voilà, enfin on retrouve bien le gambit
Le
qu'on aime
gambit de
lire.
la grande époque, quoi.
Voilà, c'est ça. Très vite, donc sa route, pardon, croise celle de Polaris, anciennement X-Factor et plein d'autres équipes. Elle aussi, Peter David arrive très bien à l'écrire et tant mieux parce que c'est deux personnages qui demandaient vraiment à être enfin bien utilisés
Ouais, enfin,
et bien
en même temps,
exploités.
j'ai envie de dire, pardon de te couper, mais il n'a pas des masses de mérite. Polaris, il l'a tenu pendant longtemps quand il écrivait X-Factor dans les années 90, il l'a retenu là quand il écrivait X-Factor l'année dernière. C'est un personnage qu'il
Bah
connaît
non, mais
bien quand
c'est...
même.
Ouais, mais enfin, il a le mérite de savoir l'écrire, puisque apparemment c'est le seul, hein. Je veux dire, si Polaris passe chez d'autres scénaristes, bah c'est nul. Voilà, donc tant mieux qu'il l'ait récupéré. Et donc Gambit et Polaris sont amenés à rencontrer le fameux dirigeant de cette entreprise Serval, qui leur reparle donc de reformer une mouture d'X-Factor, mais qui n'a rien du tout à voir avec les X-Factor qu'on a connus précédemment.
Enfin, s'il faudra qu'il mange des trucs bizarres.
Et non du tout. Pas d'épreuve comme ça. En tout cas, pas pour le moment.
Ah non, c'était
Et
Fear Factor, ça, pardon.
oui, en
X
plus.
Factor, c'était un truc de chanson, je crois.
Oui, en plus. Bon, voilà. Bon, bah tu peux
Fail!
déchanter, Steve. Ouais. Sur place, il croise une troisième recrue, d'ailleurs, Pietro, un Quicksilver, que Peter David avait déjà utilisé dans la précédente version de X-Factor, par moment. Hein, c'était pas un personnage régulier non plus, mais
Oui,
en
puis
tout cas,
aussi
il
dans les
était là.
années 90.
Et oui, ouais, tout à fait. Et un personnage aussi très intéressant sous la plume de Peter David. Et donc, les trois sont partis en mission, enfin, partent en mission. Alors, là, on va dire encore, mais ils partent en l'occurrence affronter l'AIM. Décidément très présent, hein, c'est un petit peu comme le Shield, mais version super vilain en ce moment,
C'est
l'AIM.
ça.
Voilà. On s'arrête justement en plein débarquement. Ils arrivent là-bas. Il y a ce que je crois reconnaître une mutante qu'on connaît. Enfin, si c'est bien elle, je sais pas. On verra dans le prochain épisode, qui fait son apparition à la fin. Voilà. Bah, en tout cas, c'est vraiment très drôle. Il y a vraiment de très bons dialogues. Pour moi, c'est vraiment la bonne surprise de ces nouveaux titres Marvel. Comment ils ont appelé ça maintenant?
All New
Marvel
Marvel
Now.
Now.
All New Marvel Now, voilà.
J'ai une
Bon
petite
bah.
question quand même, parce qu'on a
Oui.
Cypher sur la cover et tu n'en as pas fait mention. Est-ce qu'il est en
Oui, alors
comic?
la couverture nous montre des gens qu'on voit pas encore.
Ouais, tout à fait.
Ils sont pas tous encore arrivés. Effectivement, il y
Ça spoil.
a
Bon, on savait que, non, mais on savait qu'il serait dans l'équipe, ça avait déjà été annoncé, mais comme tu n'en avais pas parlé, je savais pas s'il était dedans ou pas en fait.
Il y a deux personnes sur la couverture qu'on ne voit pas
Qu'on
encore.
voit pas du tout, ouais.
Bon, il y en a un qui est dans l'ombre à la rigueur, donc bon, le côté mystérieux, voilà, mais là, Cypher, on le reconnaît, quoi.
Non, ils sont pas encore là. C'est vraiment le début de la création de cette équipe, à mon avis, qui va être enfin constituée à la fin du premier arc. En tout cas, c'est un arc qui démarre très bien avec de l'humour, de l'action, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour du mystère aussi, hein, puisque c'est quand même intriguant tout ça. Qui est ce mystérieux philanthrope
Ouais, tout à fait.
qui les rassemble. D'ailleurs, il est assez charismatique. Il se
Okay.
marre quand Gambit lui dit: mais qu'est-ce qui nous prouve que t'es pas un super vilain et que t'as des mauvaises intentions? Tout de suite le mec lui rigole et lui dit ouais, mais non. Enfin voilà, c'est assez intriguant
En
tout
fait, c'est
ça.
arcade.
Qu'est devenu Madrox sur son île maintenant, a priori? Ça,
Ils en
c'est petit
parlent de
mystère, petit
Madrox,
mystère.
justement.
Ouais, non,
Ouais,
c'est ça,
ils en
c'est
parlent,
amusant.
ils les montrent.
Ouais, non, j'ai trouvé moi aussi le titre vraiment plaisant à lire. On retrouve un Gambit charismatique et amusant. Voilà, ça pose les bases encore une fois. C'est assez efficace comme premier numéro. Il y a un petit twist effectivement avec la fin et cette fameuse mutante. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool graphiquement. Je trouve ça solide. C'était un ancien qui avait bossé sur les Ultimates récemment et j'aimais beaucoup déjà son style. Je trouve ça très dynamique. Et sur X-Factor, c'est pareil. On retrouve cette force dans le dessin. Donc un titre solide pour commencer effectivement.
Il reste pour moi juste un bémol, c'est pitié, changez-moi ces costumes. Ils sont
Ah ouais.
vraiment affreux, je les trouve affreux, moi, les costumes, mais bon.
Bah, en tout cas là, dans le premier, Gambit ne porte pas le costume en question. On a vraiment le Gambit qu'on connaît. C'est juste Polaris qui a ce costume. Alors sur Polaris, je trouve que ça va plutôt bien.
Ah, c'est non, mais c'est le choix des couleurs, bon, après.
Ouais. Enfin moi ça m'a pas choqué graphiquement, j'ai plutôt bien aimé, même si c'est assez particulier, c'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé du style de cet auteur, qu'on a pu voir notamment sur des trucs un peu plus j'allais dire indé, mais
Bah, sur du
c'était
Marvel
les
Noir,
fameuses.
notamment.
Ouais
Ouais,
voilà,
entre
c'était
autres.
des séries un petit peu hors continuité, donc c'est vrai que sur un titre régulier, je sais pas si on l'a beaucoup vu. Mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça très très bon. Pour moi, c'est mon coup de cœur de la semaine, très bonne surprise.
Oh mon Dieu.
Et je lirai la suite avec un... Pardon.
C'est ton coup de cœur de la semaine, tu n'as pas choisi Walking Dead en coup de cœur?
Ah bah non, faut non non, quand il y a des nouveautés qui sont bonnes, faut le dire. Walking Dead, bon bah ça reste Walking Dead, mais ça reste très bon. Mais là quand il y a une nouveauté comme ça, non non, c'est clairement mon coup de cœur de la semaine.
Bruno, ta note.
Ouais, moi j'ai trouvé ça aussi très cool, donc ce sera un petit bail.
Allez, on va continuer avec toi, Bruno, qui va nous parler du dernier nouveau titre, All New Marvel Now, ou en tout cas tagué All New Marvel Now, puisqu'on aura encore un nouveau titre Marvel juste après. C'est le Black Widow numéro 1.
Oui, et c'est Nathan Edmondson au scénario et Phil Noto au dessin, des dessins que j'ai trouvés sublimes, bien aidés également par une colo très efficace. Donc c'est un titre bien sûr qui va s'intéresser au personnage de Black Widow et qui va nous parler un petit peu de ce qu'elle essaye de faire. Elle essaye un peu de se rattraper par rapport à son passé. Elle a un passé qui est très mystérieux. On sait qu'elle a été plutôt du côté des méchants quand elle était plus jeune. Et là en fait elle a décidé de faire une sorte de
De
faire des BA
pénitence.
en fait. De ouais c'est ça.
Pénitence,
Elle
voilà.
fait pénitence et elle s'est associée avec un avocat. Elle a créé un compte en banque et en fait elle fait des missions qui lui permettent de gagner de la thune qu'après elle va utiliser pour justement essayer un peu de se racheter. Et des missions bien sûr qui nécessitent certains critères, à savoir s'attaquer à des gros pourris quoi. Et donc là on la voit quand elle n'est pas avec les Avengers. C'est un petit peu la même chose que pour Hawkeye où justement on s'intéresse au personnage d'Hawkeye quand il n'est pas avec les Avengers. Là c'est vraiment en solo. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait et quelle est son occupation? On la voit même chez elle avec son chat et tout
Non,
et
pas son
on
chat. Avec pas son chat.
avec pas son chat, mais oui, presque pas son chat. Et donc il y a une narration que j'ai trouvée très bonne, qui joue justement sur les mystères de ses origines et qui nous montre bien que le personnage est torturé. On a droit à une page, enfin la toute dernière page. Moi, je l'ai trouvée sublime avec. C'est pourtant simple. Hein, il y a un petit effet assez cool au niveau graphique et elle est sublime. C'est là où je me suis dit, ah, c'est mon coup de cœur de la semaine. Je suis sous le charme des dessins de Noto. Sa Black Widow est sublime. Tout ce qui est scène d'action, c'est vraiment bien représenté.
Bah, il a l'intelligence de faire quelque chose de très réaliste, notamment sur cette dernière page, en justement évitant la symétrie parfaite.
Ouais,
Tu regardes
tout à
son
fait.
maquillage, son maquillage n'est pas du tout parfait symétriquement, comme dans la vraie vie en fait.
Ouais. Et donc,
Et
je
ce
dois
sont
dire
ces
pour.
petits détails-là qui rendent la page belle en fait.
Ouais. Et voilà. Puis bah, c'est bien mis en scène. Donc, bien sûr, là, on la voit essayer d'empêcher un contrat et c'est cool. Donc, c'est quand même un bon film d'espionnage. Je sais pas comment le titre va si ça va continuer vraiment sur ce ton, ça va peut-être être un peu difficile de faire que des one shot comme ça où on va la voir faire une petite mission de temps en temps. J'espère qu'il y aura un fil rouge, j'espère qu'il y aura des révélations sur son passé. Mais en tout cas, pour un premier numéro, c'est quand même assez alléchant.
Ouais,
Ouais, y a un truc là
vas-y, Benny.
qui m'intrigue dans ce que tu viens de dire, parce que je l'ai pas lu, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la Black Widow du film, quoi. C'est la Black Widow qui doit faire repentance parce qu'elle a un sombre passé. Alors elle est en pleine période de comment
On
dire.
connaissait déjà son
Ah.
sombre passé dans l'univers Marvel, hein.
Mais voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Et
Mais
pourquoi
non, mais ce
maintenant?
qu'elle dit, c'est qu'on ne sait pas tout, en fait. Et qu'il y a
Oui, mais
beaucoup de
voilà, bah
choses qu'elle
comme
n'a
dans le
pas dit.
film. Bah, comme dans le film. Tu vois, c'est comme par hasard,
Eh oui,
c'est à
mais.
cause du film, elle est la Black Widow du film, donc faut qu'elle s'en rapproche de ce qu'elle est dans le film. Donc elle a un sombre passé et d'un seul coup, ça y est, maintenant, il faut faire repentance alors que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on la voit et que non. Tu sais, c'est faut que ça arrive maintenant quoi, pour que ça colle au film.
Tu sais, toutes les mini-séries qu'elle avait, c'était un peu ça aussi, hein. Toutes les mini-séries précédentes, c'était un peu ce principe-là. Ce qui était un peu un problème pour moi. Et mon gros problème avec cette série, c'est que on suit le modèle Hawkeye. On n'essaye même pas de se démarquer, quoi. Quand j'ai lu les premières pages, je me suis dit, oh bah ça y est, c'est Hawkeye bis, quoi.
Ah, c'est aussi drôle. Non, il n'y a pas
Non,
l'humour.
non, il n'y a pas l'humour. Mais
Ah oui, bah
dans,
d'accord,
non, mais
bah,
dans
c'est quand même
la
une grosse
façon
différence.
d'amener la série, c'est pour moi, c'est Hawkeye bis. Et ça me dérange, quoi. Ça me dérange parce que je trouve un certain manque d'originalité. Hawkeye a marché, Hawkeye remporte des prix, Hawkeye est nominé pour un prix à Angoulême. Putain, ça y est, il faut faire vraiment du Hawkeye à fond, quoi, parce que c'est ça qui marche et c'est ça que les gens veulent. Ouais, mais.
Ouais, mais c'est pas anodin. Enfin, je veux dire, Hawkeye et Black Widow ont été souvent associés, et
Mais
c'est deux des personnages qui
d'autant
n'ont pas de
plus.
pouvoir. Donc, ils sont amenés à affronter des personnages, pas des gros super vilains avec des énormes pouvoirs. Là, on voit vraiment
Moi,
un
ça me
côté
fait
plus
plus penser.
espionnage.
Ouais, ben bah moi, ça me ferait plus penser justement à une série comme Velvet,
Oui, aussi.
qui, enfin voilà, puisque là, mais
Dans
Velvet est
l'univers
un
Marvel.
personnage. Oui, mais Velvet est un personnage aussi entièrement nouveau, donc tout reste à faire. Là, Black Widow, ça fait très longtemps qu'on la connaît, et comme par hasard, c'est un sujet, mon sombre secret, il y a encore un truc que j'ai de caché, et là, aujourd'hui, j'ai décidé de me racheter.
Bon, apparemment, il n'y a
Enfin,
pas
voilà.
qu'un truc, hein, mais
Oui, mais en plus, bon, bah, allez.
on a quelques pistes qui sont données rapidement, mais à voir. Alors bon.
Ce qui me gêne, tu vois, c'est quand on fait ce type de série, on a limite l'impression que le personnage vient d'être créé, qu'il est nouveau. Tu vois ce que je veux dire?
Oh, je pense qu'il y a moyen toujours de rajouter la mythologie du personnage. Bon, là, c'est de la grosse ficelle bien éculée, mais. En fait, comme je dis, vraiment, moi, mon gros souci, c'est qu'il n'y a pas l'originalité qu'il y a eu avec Hawkeye. Avec Hawkeye, c'est arrivé. Alors, il y avait certes le ton drôle en plus de Matt Fraction qui ne nous avait pas forcément habitué à ça sur ses travaux Marvel. Mais
Bah
au-delà
oui.
de ça, il y avait ce côté, ben, on découvre un personnage en solo qui ne met jamais son costume, etc. Bon, là, ce n'est pas forcément le cas pour Black Widow, mais là, on avait ce côté super novateur, enfin, ou presque. Et là, ce côté novateur n'est pas du tout présent, je trouve. Et ça me fait craindre aussi pour la suite des séries solo pour Marvel. Si tout est basé sur ce modèle-là, ça va devenir très chiant très vite. Et bon, après, bon, Finotto, excellent. Sachant que tu parlais de la colorisation, c'est lui-même qui l'a fait, d'ailleurs.
Ouais. Ouais, non, c'est du beau boulot,
Il y a un énorme boulot. Moi, j'ai peur en plus qu'il ne tienne pas la cadence. Clairement. C'est ce qui me fait craindre aussi pour la suite de la série, parce que là, ça va marcher parce qu'il y a Finnotto. En plus,
quoi. Ah, c'est ça. Bon, le fait que ce soit mon coup de cœur, c'est en grande, grande partie pour les dessins. Je l'avoue.
parce que le reste de l'histoire, c'est quand même assez bateau, hein.
C'est bateau, mais c'est
Si badaud.
efficace. C'est efficace et je trouve que
C'est efficace
la
dû à la mise en
narration est,
scène.
voilà, la narration avec la
Oui, la
mise en
narration
scène.
d'Edmondson aussi est très bonne,
Ouais.
hein.
Mais c'est vrai que le pitch est simple et il n'est pas c'est pas renversant.
Donc un peu comme. Bon, en même temps, moi j'attendais pas grand-chose de cette série, clairement. J'attendais beaucoup plus d'Avengers World. Certes, j'étais un peu déçu, mais bon voilà, comme j'attendais pas des masses de trucs, pour moi, ce sera un check-it pour l'histoire, à la limite du check-it moins. Par contre, pour les dessins, c'est un bail. Donc on va dire un bail moins ou un check-it plus, quoi. Ça revient à peu près au même.
Bon bah pour moi bien sûr c'est un bail, j'ai adoré. Je regrette juste une petite chose, c'est que avec le All New Marvel Now, il y a pas mal de titres qu'on aurait pu attendre à 3$ qui passent à 4$. Donc ça aurait été à 3$, ça aurait été vraiment l'ultra bail.
Ce qui est
4,
terrible, c'est que
c'est peut-être un peu cher, mais j'ai quand même passé un super bon moment et j'ai adoré pour les dessins, quoi.
ce que je trouve terrible avec cette façon de faire, c'est que non seulement ils saturent le marché, ils sortent un maximum de nouveaux titres, donc ils utilisent un maximum de place sur les étalages, ils ont envie que le public suive, et là où justement en sortant plus, ils savent qu'ils vont rentrer plus d'argent, ils pourraient faire un effort. Non, non, ils t'assomment encore plus, toi le client. Ça, pareil, c'est une drôle de stratégie, quoi. Bref. Passons à la suite. Autre nouveau numéro 1. Alors là, c'est un one shot qui est un crossover de one shot. Oui, c'est compliqué, mais c'est compliqué, mais c'est très simple en même temps. C'est le Revolutionary War Alpha, scénarisé par Andy Lanning et Alan Cowsill, avec Richelson au dessin. Alors, il va falloir connaître un tout petit peu les personnages à tendance anglaise pour arriver à comprendre ce qui se passe. Si vous avez lu un petit peu les dernières séries comme Captain Britain and the MI-13 et les autres séries à tendance anglaise, eh bien, vous serez en terrain conquis, vous comprendrez tout. Sinon, genre, vous allez ramer.
Genre Mr. Bean, quoi.
On va suivre Captain Britain et Pete Wisdom. Ah oui, le retour de Pete Wisdom.
Oh, il nous a manqué.
Vont découvrir que les Mystèques, qui étaient une espèce de race un petit peu extraterrestre venant d'une autre dimension,
sauce barbecue,
qu'ils pensaient avoir détruit, finalement reviennent. Et du coup, il va falloir essayer de régler le problème. Le Shield est là, il est bien présent pour Bunny. Ouais. D'ailleurs, il y a une phrase, puisque Bunny ne nous voulait pas, on est venu.
Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne. Ils en sont bien capables, les salauds.
Mais on va voir aussi.
Ils nous écoutent en plus.
On va voir aussi des personnages comme Deathhead qui vont revenir. On a des personnages comme Dark Angel, comme Motormouth. Enfin, des personnages vraiment très obscurs pour ceux qui ne connaîtraient pas Marvel UK. Mais ça reste un bon moyen de les découvrir puisque c'est quand même assez reader friendly malgré tout. Alors, il se passe pas mal de trucs. On vous fait un petit historique quand même de ces précédentes rencontres avec les Mystèques. Et je savais qu'il y en a un qui rigolerait encore. Et ce qui s'est passé et pourquoi ils reviennent. On parle un petit peu de Captain Britain et du Britainverse et de l'Omniverse Britain. Enfin, ça reste quand même assez compliqué.
C'est pas un peu une erreur, les Mystèques ?
Oh putain.
Non mais ça reste de toute façon anglais quoi, donc c'est forcément super compliqué quoi.
C'est anglais,
univers comme ça de Warren Ellis et compagnie, c'est toujours très 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 bizarre quoi.
C'est assez étrange effectivement, mais enfin franchement c'est vraiment pas mal. Moi je continuerai. Je sais pas, j'aime la difficulté peut-être, j'en sais rien, mais voilà.
Ah mais je pense que c'est ça. Hein.
Parce que je suis vraiment pas un connaisseur en plus de l'univers anglais de Marvel, mais voilà, c'est assez bien écrit pour me donner envie. Et puis les dessins de Richardson sont quand même vraiment pas dégueulasses.
C'est le même Deathhead qu'on voyait dans Iron Man ou c'est
exactement,
un autre?
Exactement.
C'est le même, d'accord, ok.
De même qu'il y a un personnage que l'on voit là qui va arriver le prochain arc d'Iron Man aussi. Écrit par Kieron Gillen, oui, qui rappelons-le anglais. Est anglais et donc connaît très très bien cet univers-là, et je pense que c'était pas innocent de sa part de ramener un personnage comme Deathhead. Voilà.
Moi je les connais pas du tout ces persos et j'ai envie de tenter Revolutionary War, j'espère que je serai pas trop largué.
Je les connais pas des masses hein, les persos, ouais, honnêtement.
Et quand on voit les couves, on se dit il y a du potentiel quoi. Ils ont des bonnes gueules de bons héros quoi.
De vainqueurs.
Ouais. C'est en plus je veux dire c'est les années 90 quoi, donc
des
franchement
bons
on a
flingues
des personnages
tout,
voilà c'est ça. Ouais. On a des personnages avec des flingues monstrueux, super baraque, Rob Liefeld style, enfin bon. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment à lire ce truc, un meilleur moment à lire ça d'ailleurs, même si j'ai pas tout compris, que dans Avengers World ou Black Widow.
D'accord, ok.
Étrangement. Donc pour moi, ce sera un bail sur Revolutionary War, avec quand même le bémol de attention, vous mettez les pieds, si vraiment vous connaissez rien à l'univers Marvel UK, que ces personnages-là ne vous intéressent pas, je suis pas sûr que ce soit le comic à aller checker, quoi. Voilà. Allez, on termine notre partie Marvel qui est décidément
énorme.
Très très longue cette semaine.
Ouais.
En même temps, il y avait beaucoup à dire parce que c'était pas mal le nouveau numéro 1, il fallait faire le point. Avec les Ultimates de la semaine qui sont coincés dans cet énorme crossover qui s'appelle Cataclysm. Et on commence avec Cataclysm Ultimate Spider-Man numéro 3, Bruno. Je vois sur conducteur, tu l'as mis quand même une sale note. Hein.
C'est pas terrible en fait. Donc c'est toujours Bendis.
Ça fait deux fois que tu nous dis que c'est pas terrible ça.
Bah, effectivement, et là on a droit cette semaine à deux titres de Bendis. Donc Ultimate Last Stand et Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man, il ne se passe rien, mis à part la révélation qu'on avait vue à la fin du numéro 2, à savoir que Miles avoue enfin à son père qu'il est Spider-Man, qui donne droit à des scènes un peu convenues. Hein ? Comment ?
J'ai fait la blague la plus pourrie de l'univers. Je disais qu'il pouvait voyager gratuitement.
Oh putain, oui, d'accord, ouais. Bah justement, il est question d'avion dans cet épisode, puisqu'il y a un crash d'avion.
Tu vois ça un peu, ce professionnel?
Voilà. C'est ça, un crash d'avion avec une mise en scène que j'ai trouvée très ratée, puisque y a les passagers qui disparaissent d'une case à l'autre. Je crois que c'était pour éviter de mettre des scènes violentes dans le comics, et j'ai trouvé ça tout pourri. C'est inintéressant, il se passe rien. Franchement, il y a 20 pages, il se passe rien, c'est très très beau, mais il se passe rien. Donc hyper
C'est là qu'il
décevant.
pourrait y avoir un truc digital intéressant, c'est-à-dire que quand tu fais ton compte sur Comixology ou sur l'application Marvel, t'es obligé de rentrer ton âge. De toute façon, en général, t'es obligatoirement majeur pour pouvoir utiliser une carte de crédit pour pouvoir payer. Mais bon, je veux dire, en fonction de ton âge, tu pourrais avoir les scènes graphiques ou pas, tu vois.
Voilà, oui, non, c'est vrai, parce que là, enfin, je sais pas, il y a peut-être que moi qui ai eu cette sensation, mais c'est très bizarre. On a l'impression qu'il y a qu'une seule personne dans l'avion, quoi. Et enfin voilà,
C'est les Langoliers.
c'est ça, c'est ça. Mais
Quel bon
donc,
film! Quel bon film
Bah, c'était un
extraordinaire.
téléfilm de toute
C'était un
façon.
téléfilm en
C'était un
plus.
téléfilm, mais la nouvelle est excellente en revanche.
Ouais, Donc c'est
oui,
un petit passe, il se passe
mine de.
rien, et puis en plus ça se termine, c'est pour enchaîner sur Ultimate Last Stand, donc c'est vraiment une parenthèse. Donc Ultimate Last Stand qui lui s'intéresse plus avec justement cette histoire de réalité, en fait ils se rendent compte que Galactus vient de la Terre 616, et en fait ils vont essayer d'envoyer Miles Morales et Reed Richards de leur univers, qui est un super vilain, sur la Terre de Marvel classique, pour savoir comment, sur la Terre Marvel classique, ils se sont occupés de ce fameux Galactus. Et là, en fait, on a droit aussi, pareil, même chose, à un numéro hyper chiant, où il se passe rien du tout, alors que les deux premiers étaient vraiment emballants. Là, on a droit à un truc hyper convenu, hyper relou, et avec des grosses splash pages nulles, et
Alors,
puis un baglé pas très en forme, donc
avant que
hyper
ce soit
décevant.
spoil, tu peux m'expliquer, bah vraiment sauf si c'est spoil, tu me le dis et on s'arrêtera là, mais pourquoi envoyer Reed Richards, le Reed Richards Ultimate, qui est un pourri, avec Miles Morales? Enfin, là, je comprends pas quelle est la stratégie qu'il a voulu accomplir. C'est Bendis qui s'est chié dessus ou.
Non, c'était dans le 2, il expliquait qu'en fait c'était le Reed Richards de la Terre classique qui avait toujours trouvé les solutions pour éloigner Galactus, et ils ont, en fait c'est une astuce parce qu'ils ont peur que ils puissent pas se rendre dans le laboratoire de Reed s'ils n'ont pas quelqu'un qui ait exactement le même ADN que lui, quoi. Donc ils ont besoin de lui pour aller récupérer les fichiers, et
Mais
Reed
d'accord,
Richards
on sent déjà que ça va courir la catastrophe, ce truc-là, quoi.
Exactement. Alors après, est-ce que ça va être une catastrophe ou pas? Ce qui est la catastrophe, c'est qu'on a 20 pages où il se passe rien, et bah évidemment le 4,
C'est une
puisque
catastrophe.
non mais c'est vrai, parce que autant quand je sais bien, je le dis, mais là c'est pas terrible, et on sait que le 4 il va se
Ça
passer
y
des
est,
trucs de
Bruno a vu la
fou.
lumière.
Mais non, mais
Attends, mais moi je
arrêtez,
vois
mais.
trop le reportage télé.
Et
20 pages où il n'y a rien, une véritable catastrophe.
C'est ça le cataclysme. Donc voilà, mais vivement le suivant quand même. Mais là, celui-là, vous pouvez le passer hein, également.
Bien, et ben ça, c'est la preuve qu'il est grand temps de terminer cet univers. Hein. Si même le gros event qui est censé faire vendre un maximum et il se passe rien, franchement quoi. Bah, bah,
C'est
bon.
même le moment de passer d'ailleurs complètement d'une maison d'édition à une autre,
Exactement.
par exemple.
Donc les deux c'est dépassé, c'est ça?
C'est deux passes.
De passe. Allez, on passe donc à l'indé. On va revenir sur quelque chose de vraiment plus terre à terre, quoique. X-Files saison 10 numéro 8, écrit par Joe Harris avec des dessins de Michael Walsh, des dessins toujours excellents, je trouve, qui nous dépeignent vraiment bien cet univers de X-Files, et on reconnaît très rapidement les personnages, tout en apportant sa touche graphique à lui. Et c'est le retour de Mr. X, cet homme où il fallait mettre une croix et éclairer avec une loupiote à la fenêtre.
Bah oui, parce que sinon il voit pas la croix sur la fenêtre. Agent Mulder, vous n'avez pas allumé la lumière, espèce d'abruti.
Qui représente notamment cette espèce de symbole X de X-Files. Hein. Bref, si vous ne connaissez pas Mr. X, eh bien, allez voir X-Files. Et
Non,
revenez.
mettez du scotch à votre
Et
fenêtre. Puis vous le connaîtrez. Ou
revenez
tapez
quand vous aurez
X
vu toutes
dans
les saisons.
Google.
Oui, tapez triple X dans Google, allez.
Vous allez avoir de drôles d'images. Vous allez
Surtout
le
les enfants,
connaître.
ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous.
Ne tapez surtout jamais X-Men sur Google.
Bon, ça va être difficile de reprendre. Mulder et Scully donc ont été réintégrés au FBI dans la section des affaires non classées. Et Mulder reçoit des coups de fil étranges avec des bruits qui font comme ça. Et il comprend pas très bien. Il pense que c'est quelqu'un qui essaye de taper son code PIN après l'avoir appelé. Parce que Mulder est quand même très con.
Ce qui m'a fait aussi marrer, c'est que il a carrément ressorti le gag des fameux crayons de bois, enfin des crayons
Oui.
papier qui plantent dans son faux plafond. au-dessus de sa tête, et c'est un truc récurrent dans la série télé, et on a ça même dans le comics, comme quoi c'est vraiment super fidèle, quoi. On a vraiment le même type de gag, le même type d'ambiance, c'est très bien foutu.
Et donc Mulder reçoit un coup de fil lui disant que il y a
Il a gagné un
un
voyage.
paquet qui l'attend, il y a quelque chose qui lui appartient à tel endroit. Il y va, c'est un appartement quelconque de personne lambda, mais il va découvrir une fiole de sang et un X à la fenêtre. Et là, oh, le choc, Mister X n'est pas mort finalement.
Non, ou peut-être.
Ou peut-être. Et oui, c'est là qu'est tout l'intérêt, puisqu'on va subir des flashbacks, enfin subir, façon de parler. On va suivre, pardon, des flashbacks où on voit des rencontres entre Mr. X et Deep Throat. Et oui, alors pour ceux qui n'ont jamais vu X-Files, ça paraît très confus. Mais pour ceux qui
Ouais.
les ont vus, c'est un véritable bonheur.
Tapez Deep Throat dans Google.
Non, surtout, ne tapez pas ni Mr. Triple X, ni, ni Deep Throat.
Vous aurez aussi une surprise.
Il y en a qui vont vomir, et ce ne sera pas forcément vous. Si vous
Non.
voyez ce que je
Oui,
veux dire,
oui.
voilà.
Ah, peut-être
Bref.
des images aussi. Bon, bref.
Tout ça finit avec une scène absolument dégueulasse de vomi, justement, entre
Ouais.
autres. Non, franchement, c'est génial. Ça peut paraître complètement décousu comme review, mais c'est véritablement génial. Enfin, Benny, qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode?
Oui, ben non, mais
Que
c'est
tu as
bien
mis
parce que
trois
c'est
plombes à lire
vraiment.
en plus, que t'as pas réussi à lire parce qu'on n'arrêtait pas de te dire, hey, c'est elle. Enfin, voilà. Bref,
Oui,
nous
oui,
n'allons
oui.
pas révéler nos
Ouais.
secrets dans mon podcast.
Non, voilà, on va pas le dire. J'ai failli le dire. Bon, c'est pas grave. C'est tellement tentant. Mais non, non, mais en tout cas, c'est vraiment une série que je lis à chaque fois. Comment dire? J'ai l'impression à chaque fois que je la lis que je regarde un épisode. C'est tellement bien. Ils arrivent tellement bien à retranscrire l'ambiance d'un épisode X-Files et les personnages réagissent, ont vraiment le même comportement qu'à la télé, que t'as l'impression. Enfin, j'ai les voix qui m'arrivent en tête.
Complètement.
Alors, c'est assez étrange parce que c'est en anglais. Mais j'ai
Mais
les
t'as
voix
les voix
françaises,
françaises,
même moi qui
logique.
m'arrive en tête. Donc, enfin voilà. Mais je rentre complètement dedans. Et là, comme tu dis, il y a notamment des flashbacks avec Mister X qui est dans une école. C'est super glauque avec des élèves qui pètent complètement les plombs, des petits gosses qui se mettent à tirer partout et à tuer leurs camarades.
Parce qu'il y a des expériences assez étranges.
Voilà. Donc, enfin, on est vraiment totalement dans l'ambiance X-Files, avec des complots gouvernementaux, avec donc ce fameux Deep Throat, comme tu dis. Non, enfin, y a vraiment de quoi faire pour trouver son bonheur si on est fan de cette série. C'est vraiment un must-read, quoi.
Ouais. Quand on est vraiment fan de X-Files, ou même, enfin, même si on n'est pas complètement fan de X-Files, mais qu'on avait suivi la série, qu'on avait bien aimé X-Files, tout comme Deep Throat, on est complètement dedans. Voilà. Pour faire une vanne absolument ignoble pour
Oh
terminer cette
là là.
histoire. Non, c'est un gros bail. X-Files saison 10 est une véritable petite pépite. J'avais peur du syndrome de la saison de télé qui certes a été a bien marché pour Buffy, mais qui a été vachement exploité depuis la suite de la série en comics. On commence à connaître le coup. J'avais peur que ce soit la ficelle où on a trop tiré dessus, le concept trop utilisé, et finalement ça marche super bien sur X-Files. Faut
Donc
dire.
j'encourage vivement les gens qui ne s'y seraient pas encore mis et qui ont aimé X-Files de se mettre à la lecture de ce titre, ils vont absolument pas le regretter.
Mais peut-être aussi que, tout comme Buffy, le fait d'avoir le véritable showrunner derrière, ça aide à faire quelque chose de cohérent et de très bon. Comme Joss Whedon est sur Buffy chez Dark Horse, Chris Carter relit tous les scénarios de Joe Harris et valide l'ensemble pour que ce
En tout
soit
cas, là, il n'est
cohérent
pas
avec son univers.
crédité sur
Il n'est
celui-là,
pas
par
crédité,
exemple.
mais normalement,
Mais
en fait, il relit tous les scénarios, il est vraiment derrière, quoi. Il coécrit pas,
enfin,
mais enfin voilà, il valide.
Joe Harris, apparemment, il est très bon, hein, c'est pas un manchot.
Oui, ah bah non, clairement
Parce que
pas.
là, les scénarios sont très très très
Donc gros bail hein, pour ce X-Files.
bons. Ouais, absolument. Absolument. Proche du coup de cœur, hein.
Ouais, c'est vrai.
Il y a pas mal de choses cette semaine d'ailleurs qui sont proches du coup de cœur.
Bruno, tu vas passer à la blague de la semaine, Shaolin Cowboy numéro 4.
Oui, c'est Jeff Darrow
Proche du coup de cœur aussi.
au scénario et au dessin. Alors, scénario, c'est toujours le même depuis trois numéros. C'est le Shaolin Cowboy qui dessoude du zombie. Alors, il tue des zombies, mais de façon très classe, c'est-à-dire avec des dessins sublimes,
Ah, c'est
énormément
beau.
de détails. Il y a
C'est très très beau.
Ah, il y a des yeux qui volent, il y a des membres qui sont disloqués, il y a un Shaolin Cowboy très balèze et tout qui du coup comme il a plus de hache ni de tronçonneuse pour pouvoir
Ouais, il avait sa tronçonneuse, enfin
voilà,
il avait cette espèce
sa
de grand
double
bâton avec
tronçonneuse.
une tronçonneuse à chaque bout, mais
Voilà.
les deux n'avaient plus d'essence à la fin de l'épisode 3, c'était le twist!
Le twist. Et là, il se bat avec les mains maintenant et il arrache des visages avec les doigts. Donc voilà,
Tu
c'est de la
remarqueras
baston.
quand même que
Ouais,
chaque mort est différente. Donc il y a quand
non,
même.
mais ça,
Non,
ça
c'est vrai qu'il y a un
ouais.
véritable effort de création, mais.
Non, mais moi j'ai vraiment envie de lire ça, quoi. C'est-à-dire
C'est
que je trouve
super bon.
T'en as
ça.
pour 5 minutes pour lire les 4.
C'est
Oui,
ça.
mais c'est pas grave. Non, mais enfin, je veux dire, si c'est vraiment le. Bah voilà, la particularité de cette série, je me dis, mais pourquoi pas, après tout?
Ah bah
Si c'est. Si c'est.
pour les fans de Walking Dead en manque de dessoudage,
D'action, ouais.
on va le dire comme ça,
Bah, je
de
dirais même pas que
zombies.
c'est pour les fans de Walking Dead.
Non, non, non,
Là,
mais.
je.
Non, non, je veux dire, voilà, ceux qui suivent Walking Dead et qui trouvent qu'il n'y a pas assez de zombies qui meurent dans Walking Dead, allez voir Shaolin Cowboy. Là, vous avez des
Ouais.
milliers de zombies. C'est vraiment des milliers de zombies qui meurent.
Non, mais ça a l'air vraiment d'être un gros délire.
Puis la
Et
mise en scène est très bonne en plus.
je me demande si au début ils pensaient peut-être justement faire des dialogues au bout d'un moment. Mais ils se sont peut-être dit, bah finalement on est parti dans ce délire-là, autant continuer.
Non, mais je
Ça.
pense que c'est Jeff Darrow qui a fait son délire comme il le voulait. C'est-à-dire que
Mais non, mais si ça tombe dans 50 épisodes, il n'y aura toujours pas de dialogue.
De toute façon, il y a eu assez de dialogues pour remplir 4 épisodes sur les deux premières pages du numéro 1, qui te résumait toute la vie de Shaolin Cowboy, et écrit en police taille 5, tu vois,
Ouais,
tellement
mais ce
c'était.
qui serait énorme, c'est qu'il arrive à nous faire maintenant des dizaines de numéros sans parole.
Ouais, mais
Moi, je peux.
je pense pas que ça continuera.
Ah, je sais pas.
Ah bah,
Je. Enfin.
tu verras, à la fin, on a du mal à comprendre comment ça peut continuer. Même s'il reste une ouverture, mais.
Bah, il y a une fin très what the fuck. Un petit
Ben,
peu
vous avez entendu
gratuite.
ma réaction en direct, hein, avant
Ouais.
l'émission. Ça a
Donc
été tout
voilà.
ça pour ça. Voilà, ma réaction en
Donc,
direct, ça a
c'était
été
une
ça.
mini-série en 4. C'est un très très beau artbook.
Oui.
Il
Il
se
y a
réveille à la fin.
Même une
Il se réveille et
référence
puis
à
il meurt dans
Chewbacca
sa
à un
douche.
moment, puisque voilà, il dit ami touffu. Voilà.
Oh non, c'est non, ça c'était vraiment pourri comme van, Bruno.
On est chez Dark Horse avant qu'ils perdent la licence. Et
Oh, c'est sale en plus, elle est sale la vanne.
mais voilà, bah c'est très beau, mais
Mais c'est vide.
c'est un exercice de style qui est fini là, voilà. Donc
Mais tu as mis, enfin tu as dit exactement la même chose que ce que j'avais dit les deux derniers numéros. Ça aurait été très bien de sortir ça en artbook et pas à 4 épisodes à 3,99. Putain, j'ai quand même la sensation de m'être fait voler, de me faire sodomiser à sec avec
Oh,
du
c'est
gravier,
les
quoi.
hardbooks, c'est souvent plus cher que si on fait la somme des 4 singles, quoi,
Certes,
donc.
mais ça reste du single tout pourri, quoi.
Oh,
Comparé à un artbook, je veux dire,
oui,
tu payes
mais
le
même
prix,
si
mais
la
t'as
qualité
aussi
du papier
l'objet,
chez
quoi.
Dark Horse est bonne, quand même. Mais.
Oui, enfin, moi je m'en fous, je les prends digital, donc
Oui,
la qualité de
mais.
papier, si tu veux, là, elle me touche pas trop, quoi.
Mais
C'est peut-être très
voilà.
bien pour s'essuyer le cul sans se faire mal, mais moi ça me touche pas, quoi.
Oh non, c'est quand même assez. C'est du papier assez rigide, quand même.
Oui, non, mais enfin, voilà, je veux dire, le problème c'est que autant avoir un véritable artbook avec quelque chose de
Oui.
une couverture en dur, quelque chose
Sans
de
le mec qui a essayé, hein,
un
en
vrai,
plus. Non, c'est
bel
Sam, ouais.
objet, parce que avec les dessins, cette mise en scène qui est vraiment très jolie, autant avoir le bel objet. Là, on aura le bel objet une fois qu'on sera fait pomper 4 fois 3,99 et que du coup les gros fans iront racheter l'objet. Je trouve ça un petit peu mesquin comme pratique, mais bon.
Un petit check-it.
Bah, c'est tout ce que ça vaut, hein. C'est tout ce que ça vaut. On peut pas dire que c'est un bail. Je veux dire, honnêtement, ça fait 3 épisodes qu'on lit la même chose. Voilà. Donc, bon, passons à la suite, Benny. C'est le Walking Dead 119.
Par Robert Kirkman et Charlie Adlard. Alors, surprise, surprise.
Chaque semaine, on y a droit à cette petite vanne.
Ouais. Mais bon, bon alors. Là, concrètement, justement, bah pour une fois, c'est un épisode. Ah, quoique, oui, bah pendant toute une partie, je me suis dit, ouais, bof, c'est un épisode, on va dire, de transition. Ils sont au milieu de la bataille. Rick fait une pause. Il rassemble ses hommes. Il voit où ils en sont stratégiquement parlant. Enfin voilà, il se passe pas grand-chose. Il y a Ezekiel qui est en pleine dépression parce qu'il a eu, il a eu des pertes. Et Michonne qui lui remet les idées en place à coups de poing dans la tronche. Je trouve ça un peu poussif à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se plaint, qui reçoive des coups dans la gueule. Enfin bon, voilà. Mais il y a quand même un final, quoi. Il y a quand même un final où tu te dis, oh, fais chier. Forcément, ça s'arrête au moment où t'as envie de savoir ce qui va se passer. Comme d'habitude, quoi. Il nous fait le coup à chaque fois. comment il s'appelle, Robert Kirkman, il nous fait le coup à chaque fois. Et là, il y a quand même Negan, donc qui à la fin de cet épisode fait un coup d'enculé que j'ai vraiment pas vu venir. Et je trouve que c'est limite une bonne idée, tellement bonne que je me demande comment il a pu avoir cette idée, Negan, parce que quand même, il est assez con, hein, faut dire. Il est assez. Enfin, c'est pas qu'il est bête, mais bon, il réfléchit un petit peu. Comment dire, il est un petit peu impulsif, quoi. Alors là, là, il a quand même eu une idée assez intéressante. Et malheureusement, c'est Rick et son équipe qui vont en faire les frais. Donc, on va voir ce que ça va donner au prochain épisode. Mais on s'arrête en plein suspense. Bon, c'est un bail, c'est toujours très bien. Mais voilà, il y a eu d'autres choses très très bien cette semaine aussi.
On est rendu à quelle partie de All Out War, épisode partie 5, je crois?
Je te dis justement, ils font un petit break, enfin un petit break dans le scénario, ils font un petit break parce qu'on doit être en plein milieu, ouais, plus ou moins au milieu, 5 sur 12.
Ouais, on est donc, en partie 5, ouais, c'est ça.
On arrive quasiment au milieu du truc, quoi. Voilà. C'est le break, c'est l'entracte.
Et non pas l'anthrax. Ouais.
Non, mais quoique, hein, on est peut-être pas loin de ça avec tous ces zombies.
En tout cas, rappelons que pour cet arc majeur hein, de Walking Dead, en tout cas qui nous a été annoncé comme ça, la série sort toutes les 2 semaines. Enfin, en tout cas, il y a 2 épisodes par mois.
Ouais.
Pour ceux qui auraient oublié, en fait, hein, tout simplement.
Ouais, et bien que quelquefois, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y en a trop. Il y a des espaces de 3 semaines entre certains, mais bon.
Mais oui, c'est normal parce qu'il y a des semaines où il y a 5 semaines. Enfin,
oui.
Il y a des mois, je veux dire, où il y a 5 semaines.
Des...
Parce que des semaines où il y a 5 semaines, ça ne veut rien dire. Ouais. Il y a une compression du temps, là, la Marvel, on ne sait pas trop ce qui se passe.
Ouais. Il y a des jours où il y a 5 semaines dedans.
Aussi, ouais. Non, mais voilà, il y a des mois où il y a 5 semaines et il y a 2 épisodes par mois qui sortent. Donc, un bail ?
Oui, bien sûr, oui, il y a un bail.
Allez, on termine avec DC et on attaque le gros du gros pour démarrer DC. C'est le Detective Comics 27.
Oui,
numéro
là,
emblématique s'il en est, Bruno.
Ouais, ça, c'est du gros, gros numéro anniversaire, donc mega-sized.
Oui, voilà. Ce qu'on appelait avant les oversized, hein, qui faisaient 80 pages, maintenant en font 30. Et donc maintenant, on a trouvé un nouveau mot, c'est le mega-size.
Mega-sized, donc à peu près 80 pages de comics pour une grosse histoire d'une trentaine de pages qui est l'histoire majeure, qui est en continuité, qui est Godtopia, qui est écrite par John Lehman et dessinée par Jason Fabok. Et on a droit à 5 ou 6 petites histoires qui font de 3 à 10 pages.
Mais que du matériel inédit. Hein.
Mais que pas du matériel inédit, ça c'est important de préciser effectivement.
Ouais, précisons-le.
Précisons aussi que la grosse histoire n'arrive pas au début de l'épisode
non.
aussi.
Ça arrive plutôt vers la fin même.
Ouais, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, ça change je trouve.
C'est ça.
C'est con mais ça change.
On a quand même du grand nom, puisqu'on a au niveau des scénaristes, on a du Brad Meltzer, du Greg Hurwitz, du Peter Tomasi, du Francesco Francavilla, du Mike Barr, John Lehman et Scott Snyder. Et au dessin, Brian Hitch, Neil Adams, Ian Bertram, Francesco Francavilla également, Guillaume March, Jason Fabok et Shane Murphy. Donc c'est quand même une équipe assez all-star.
Que des bras cassés.
Voilà. Donc comme c'est un numéro anniversaire et on va quand même revenir un peu sur chacune des histoires. La première, c'est un hommage justement à la première apparition de Batman. C'est-à-dire que Brad Meltzer réécrit à sa façon le Detective Comics 27 dans lequel apparaît Batman. Donc le modernise avec un Brian Hitch très en forme et on retrouve exactement le même pitch.
Très en forme, j'irai pas jusque là moi, Bruno personnellement, mais bon.
Peut-être pas, non, mais je veux dire très en forme, c'est sûr que j'ai relu en parallèle l'épisode de Detective Comics 27.
C'est sûr que là, ça peut paraître de très en forme.
C'est quand même plus joli.
Comparé à Kane, c'est sûr.
Mais donc c'est très amusant parce qu'il joue quand même Brad Meltzer avec le scénar et c'est un bel hommage. Effectivement, c'est pas le meilleur Brian Hitch.
Moi je l'ai pas reconnu au début. Hein. J'ai cru que c'était quelqu'un qui imitait le style Brian Hitch. C'est que à la fin de cette histoire sur les crédits, je me suis dit ah putain c'était vraiment Brian Hitch quoi. Non je l'ai pas du tout reconnu.
J'ai eu la même sensation de venir.
Une histoire qui reprend pas mal aussi l'ambiance du premier Burton, hein, clairement.
Oui. La mise en scène avec la fête, il y a des
la
gros
fête,
clins d'œil, effectivement.
Le coup de fil du commissaire Gordon, oui. L'arrivée de Batman dans l'usine avec la cape énorme qui se déploie,
ouais.
Le coup du gaz
un mix entre les deux.
Voilà.
Mais pour Brian Hitch, j'ai quand même une explication, hein. C'est qu'une fois de plus, il s'ancre, et personnellement, enfin... Moi, j'ai toujours trouvé qu'à chaque fois qu'il s'ancrait, il ratait le truc. Et d'habitude, quand il est ancré par Paul Neary, son style est quand même nettement mis en valeur de façon
valeur, ouais,
plus importante. Et voilà, là, malheureusement, il s'est ancré lui-même et ça se ressent.
Je trouve que c'est une bonne petite histoire pour commencer cette anthologie. Voilà, c'est très plaisant.
Bah, après, ça donne le ton de ce qui va arriver sur toute l'anthologie.
Ouais. Après, c'est une histoire qui est aussi vraiment un gros clin d'œil aux premiers épisodes de Batman, quoi, clairement.
Tout à fait. Par la suite, on a une histoire qui, elle, c'est celle qui m'a le moins plu. C'est celle écrite par Greg Hurwitz et dessinée par Neil Adams. Donc, qui s'appelle Old School et qui effectivement va nous montrer un Batman qui va passer de génération en génération via des changements de costume et qui va affronter plusieurs de ses ennemis avec une fin que j'ai trouvé un peu téléphonée.
Moi j'ai trouvé ça excellent en fait. L'idée, alors c'est un petit peu maladroit la manière dont c'est fait, mais j'ai trouvé l'idée vraiment pas conne parce que il a vraiment changé la mise en scène de ses pages en fonction de l'évolution donc du personnage tel qu'il a vraiment évolué à travers les comics. Et il y a même quand ça arrive dans les années 70 le côté d'un seul coup le pingouin qui les place dans un piège mortel de la mort qui tue, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment, d'ailleurs j'ai fait une erreur, c'est dans les années 60, c'était vraiment comme ça. Enfin, je veux dire, il y a tellement de références et de clins d'œil à la manière dont étaient écrites les histoires de Batman dans les années 40, dans les années 60, etc. À travers, ça doit faire 5 pages, quoi, 5-6 pages, que c'est quand même vachement bien foutu.
Ouais, il y a cette scène avec là où il se bat contre les bords de la page, etc. Enfin, ce sont des choses qu'on a plus ou moins vues dans les épisodes de l'époque.
Ouais.
Qui te rappellent des choses. Et puis, dessiné par Neil Adams, qui fait pas de la merde, je trouve.
Le comportement des personnages qui évoluent au fil des époques. La narration. Au début, c'est très verbeux. Il n'y a pas de cases. C'est même pas des bulles de pensée. C'est
des caption box de narration, quoi.
Voilà. Et après, d'un seul coup, il y en a, etc., etc. Le pingouin est pas pareil au début que la page suivante quand on saute une génération ou deux. Il s'exprime pas de la même manière. Non, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu d'un aspect narratif. Je trouvais ça intéressant.
Très réfléchi. Après, comme épisode. Très réfléchi.
C'est malin, mais moi j'étais un peu déçu par la fin et je suis pas fan du style de Neil Adams non plus. Donc
quelle autre fin pouvais-tu faire que ça?
Oui, il fallait qu'il casse un peu le quatrième mur.
En même temps, il brise
une
explication logique à ça.
Ouais, il brise complètement le quatrième mur et en même temps, à la fin, tu peux te dire, tu peux voir ça aussi comme le vrai Batman qui se retrouve dans notre univers, ou au contraire, c'est peut-être une hallucination totale. Enfin, tu sais pas trop.
Plus vous en parlez, plus c'est vrai. Je me suis rendu compte que je suis peut-être passé à côté de certains détails. Effectivement, les changements de costume de case en case. Moi, je m'étais surtout focalisé sur Batman. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de détails que ça. Et je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit.
Puis même dans le grain, pas mal dans le grain de la page.
C'est pas mal. C'est très malin, effectivement.
Oui, mais c'est comme toutes les histoires de ce numéro, en fait. Elles ne modifieront pas Batman dans profondeur, loin de là. C'est vraiment juste des histoires hommages. Et moi, j'ai trouvé ce numéro 27 très plaisant pour ça, en fait.
Bah, c'est surtout un numéro qui te montre tous les Batman.
Ouais.
C'est tellement de versions différentes et possibles que ça te montre vraiment que Batman est intemporel.
Bah, en comparaison avec celui qu'on a eu il y a presque un an maintenant, qui était le Detective Comics 18, je crois, qui était le 900, le 17 ou le 18, qui était l'équivalent du 900, qu'ils avaient appelé 900, je trouve ce numéro anniversaire vachement plus réussi.
Oh, carrément, carrément.
Quand on compare aussi avec un numéro anniversaire très récent, qui était pour les 50 ans de X-Men, le X-Men Gold, qu'on a eu chez Marvel, mais le X-Men Gold n'existe même pas à côté de ça.
Ça n'a rien à voir.
T'as des petits bijoux, quoi.
Ouais. Donc, par la suite, on a une petite histoire qui s'appelle Better Days, écrite par Peter G. Tomasi avec Yann Bertram au dessin. Là, une petite histoire qui se passe dans le futur avec un Bruce Wayne vieillissant et toute la Bat Family.
C'est assez désuet. Un Bruce Wayne qui fête son 75e anniversaire, finalement.
Ce qui est amusant également.
Une espèce de mise en abîme.
Ouais. Mais un titre un peu plus désuet, un peu plus amusant, on va dire, et efficace, avec une mise en scène que j'ai trouvée très belle. Les dessins sont spéciaux, mais ça passe. C'est une belle
Ouais.
petite histoire.
Ouais, c'est sympathique, mais j'ai trouvé un peu plus faible comme histoire, personnellement.
C'est pas la meilleure, hein.
Pareil,
Loin
ouais.
de là, loin de là.
Comparé aux deux premières, disons, je l'ai trouvé un peu plus faible. Même si elle est très sympathique, hein, elle est très très sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé le coup de on traverse la cascade pour sortir de la Batcave. Ça faisait très Goldorak.
Et puis il y a cette page où au fait les ennemis prennent plus ou moins la forme
Oui,
du
du
signe de la
logo.
chauve-souris.
Du logo, ouais. Ça, c'est
Enfin,
bien bien fait. Ouais.
Visuellement, c'est très propre. Hein.
des idées.
C'est une bonne idée, ouais, c'est original. Enfin, j'ai trouvé ça
Et
marrant,
d'ailleurs,
quoi.
si tu regardes, Batman fait partie intégrante de ce symbole. Il y a plein de petits détails partout. Non, enfin, visuellement, c'est très, c'est spécial, mais c'est très propre.
Bah, il y a énormément, visuellement parlant, c'est une mine d'or, ce numéro. Hein. Franchement, t'en as pour tous les styles.
Ouais.
Enfin, c'est voilà, c'est intéressant, quoi.
Ensuite,
Après,
on
on
passe à
a
l'histoire de Francavilla.
ouais, trois pages qui est un petit
Quatre.
peu
Quatre, parce qu'il y a une double.
ouais, c'est un peu un préquel à Black Mirror, en fait. Et
Oui,
voilà,
voilà, c'est ça.
c'est.
Bah, faut comprendre, faut vraiment. Si celui qui n'a pas lu Black Mirror, qui n'a pas lu les épisodes de Snyder avant le relaunch en plus,
Ou même Irwan, qui
il
n'a
va
pas
rien
lu Irwan
comprendre.
non plus.
Il va rien comprendre à qui est cet enfant.
Mais c'est pas mal. C'est court, c'est très court, mais c'est pas mal et c'est
Mais
très
ouais,
joli.
voilà, la fin est tellement. Tu fais oh, oh. Voilà. Enfin, ça a été ma réaction quand j'ai vu le personnage de la fin, même si on le reconnaissait déjà un petit peu sur la double page précédente. Tu fais
Ouais.
putain, c'est con, enfin c'est une histoire en quatre pages qui sert à rien, mais qui te fait un petit plaisir parce que tu te rappelles de cet arc qui était quand même sacrément bon.
Sacrément bon, ouais.
Oui, mais enfin, je trouve ça dommage qu'il ne soit pas expliqué un petit peu, enfin,
Ben non,
plus.
tant mieux, je trouve, tant mieux. Ceux qui comprennent la référence, tant mieux. C'est que quatre pages. Ceux qui l'ont pas compris, tant pis pour eux. C'est qu'ils ont
Ouais.
pas lu cet arc. C'est tant pis pour eux. J'ai envie de dire,
Puis
bon,
le jour où ils
on
le
peut pas être trop
découvriront, ils
reader friendly,
apprécieront
quoi.
peut-être, ouais.
Voilà.
Ouais.
C'est sympa le reader friendly, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Si on doit tout expliquer, c'est bien. Ça fait peut-être un peu élitiste ce que je suis en train de dire, mais voilà, s'ils ont raté la vanne, tant pis quoi.
On sait que tu t'es Warren Ellis en fait. Donc... ensuite, on a une histoire qui s'appelle The Sacrifice, écrite par Mike Barr avec les dessins de Guillaume March, qui est en fait sur le modèle d'un What If, qui nous explique via le
Non.
Phantom Stranger
Un
ce qu'aurait été.
Elseworld, monsieur. Elseworld,
Ouais,
de chez DC.
mais. Elseworld, alors. Ce qui nous explique ce qu'aurait été en fait la vie de Batman si ses parents n'étaient pas morts. Et voilà, pareil, de bonnes idées. Graphiquement, j'aime beaucoup moi le style de Guillaume March, donc cette partie, ça m'a beaucoup plu. Et voilà. Après, c'est assez sombre la fin,
Mais
mais.
c'est marrant parce que finalement, il y a les trois quarts de ce numéro, c'est des petites histoires autour d'univers parallèles, quoi.
Ben c'est voilà, ça rend hommage aux 75 ans de Batman en fait.
Ouais, mais en te montrant aussi des choses qui auraient pu être et qui n'ont jamais été.
Mais qui récompense le fan qui aurait voulu voir peut-être autre chose.
Ben là, ça m'a rappelé un épisode du dessin animé, un épisode donc où il était manipulé par le Chapelier Fou et qui lui faisait croire qu'effectivement ses parents étaient toujours en vie et qu'il était fou, Bruce Wayne, qu'il n'avait jamais été Batman. Voilà, ça me
Bah,
faisait un petit peu penser à ça.
en parlant de folie, on peut rentrer justement directement dans le fameux arc Godtopia, qui lui est écrit par John Layman et qui nous montre, là c'est en continuité, c'est vraiment ce qui va se passer dans Detective Comics et dans d'autres titres autour, où en fait on a Batman qui vit un peu dans un monde fantasmagorique où Gotham est devenue une ville dans laquelle il n'y a pas de crime.
C'est devenu la ville la plus sûre des États-Unis.
Voilà, c'est ça, et où ses coéquipiers ont changé de costume, ils ont changé d'identité,
Bah, lui-même a changé de costume.
et lui-même a un costume blanc. Mais en fait, on se rend très rapidement compte qu'il y a peut-être quelqu'un derrière tout ça qui est en train de manipuler la réalité.
Comme on dit par
Et
chez nous, il y a une couille dans le guacamole.
c'est ça,
Voilà, c'est
exactement.
ça. Non, c'est du côté de Joe Quesada qu'on dit ça.
Désolé pour la private joke.
Voilà.
C'est un bon début d'histoire. Que j'ai trouvé Jason Fabok vraiment très en forme graphiquement.
Le renouveau des costumes est très très bon.
Ouais.
Je veux dire, on reconnaît le costume de Batman, mais il est complètement changé. On reconnaît le costume de Poison Ivy, mais il est complètement changé. Il y a vraiment, enfin moi j'ai été mais bluffé par cette histoire. J'ai trouvé très très bonne.
Voilà, après.
Moi, je dirais que j'ai envie de dire enfin, John Layman écrit un truc qui m'intéresse.
C'est con, c'est son dernier arc.
C'est con, c'est son dernier arc, effectivement. Mais en même temps, il était temps. Peut-être qu'il avait envie d'écrire ça et enfin, on lui laisse la possibilité.
Mais,
donc, tant
ouais,
mieux.
Mais là, il a les mains libres, finalement, puisque bah, c'est moyennement en continuité, on va dire.
Malheureusement, et ça, c'est un petit peu l'effet pervers de ce type de numéro, c'est-à-dire qu'on a lu précédemment tellement d'histoires où c'était des Elseworlds que dès le début, je me suis dit. Bon bah ça s'appelle Gotopia, tu sais très bien qu'il est manipulé par un ennemi. Et dès le début je me suis dit soit chapelier fou, soit épouvantail.
Oui mais tu, enfin, même si tu le sais justement tu ouais. continues ta lecture pour découvrir le truc.
Bah tu le sais, non ce qui est vraiment intéressant c'est la, justement la, le fait qu'il ait utilisé tant de personnages et de voir ce qu'ils sont devenus dans ce monde-là, et quelles sont leurs relations, et enfin j'ai trouvé ça super bien pensé, par exemple toutes les nouvelles identités quoi.
Ouais. Le fait c'est, qu'il
je trouve ça super
ça va être sur, sur trois numéros je crois de Detective Comics et dans plein d'autres tie-ins, ça veut dire qu'ils ont quand même pas mal de choses à dire. Donc ouais. on peut penser
on reviendra
que ça
dessus juste après de toute façon.
Donc voilà, mais plutôt cool. Et on termine avec le maître Scott Snyder qui détient la franchise Batman et qui impose du coup la direction que va prendre le titre.
Qui impose sa vérité
Scott
vraie,
Snyder.
Ouais.
Et sur un épisode que j'ai quand même trouvé très sympathique, qui nous montre comment va fonctionner en fait le passage de flambeau des Batman dans le futur, avec un truc complètement what the fuck qui nous amène 20 générations de Batman dans le futur et c'est un peu foufou quoi.
J'espère tu vas dire ce que je vais dire, Benny.
Ouais, non mais...
Vas-y.
Non mais en fait, Scott Snyder nous montre ce qu'il va le faire bientôt, c'est-à-dire que à la manière d'un Hickman dans les 4 Fantastiques, nous allons avoir le conseil des Bruce Wayne, des Batman, et à mon avis, on va avoir ça très vite, ce qui va revenir dans les histoires. C'est un truc qui va forcément
non,
faire.
Là, à mon avis, c'est juste une histoire comme ça. Je pense qu'il ne faut pas y voir plus loin.
Alors,
il y a un truc qui m'a gêné, mais j'y reviendrai après.
Il y a des indices quand même, parce qu'on sait qu'on va faire ce bond dans le futur. On sait qu'il y aura Batman Beyond qui va revenir un peu dans la continuité. On voit à un moment Superman Beyond dans une des cases. Donc il y a peut-être des choses qui seront utilisées quand même pour les récits
on
futurs.
On voit un hibou aussi, là.
Ouais, mais
c'est peut-être ça dont tu voulais parler.
C'est surtout le concept qui est très what the fuck, très science-fiction. Et je sais pas. Ils se projettent tellement dans le futur qu'il faudrait être lecteur dans 100 ans pour voir si c'est des choses qui vont être conservées. Quoi.
Non, mais moi je pense qu'il y aura forcément l'un de ces personnages futuristes qui va débarquer dans la continuité actuelle.
Moi, il y a un truc qui m'a énormément dérangé. Ouais. Excuse-moi, Benny, mais franchement, je pensais que vous alliez en parler, mais...
Non, mais vas-y, parce que...
Snyder fait mieux que tout le monde. Il fait mieux que tout le monde. C'est-à-dire que monsieur détruit complètement Year One avec son Zero Year.
Oui.
Voilà. Et ben là, monsieur, il détruit ce qu'a fait Paul Pope. Paul Pope avait fait comme Batman Year 100.
Oui.
Ben lui, non, il fait Year 200. C'est parce que Snyder, il est trop balèze. Moi, franchement, ça m'a super gonflé quand j'ai lu ça.
Bah, je dirais même pire que ça, en fait, si tu réfléchis bien à ce qu'il essaye de nous dire sans nous le dire, c'est il change un petit peu, comme avait fait Straczynski avec Spider-Man, Batman. C'est-à-dire que, concrètement, il dit que Batman, c'est plus tellement le fruit du hasard s'il y a Batman, c'est que le mec devient élu. Voilà. Il est prédestiné à
Batman. Il y a quand
même
toujours eu le Batman originel, qui était la base du truc, mais... Mais c'est le même concept un peu que de faire un Batman Incorporated. Là, c'est l'héritage du rôle de Batman se fait.
Ah bah c'est encore mieux comme de toute façon. Disait Steve, c'est le niveau ultime.
Non, c'est vraiment en dehors du comic si tu veux le problème avec Snyder pour moi. Mm. C'est vraiment que le mec, c'est Batman, c'est lui. Il y a personne d'autre qui a travaillé sur Batman avant lui. De toute façon, tout ce que les autres ont fait avant, c'était moins bien. Quand tu lisais les interviews avant Zero Year, le mec arrêtait pas de dire ouais, Year One, j'y touche pas, etc. Mais quand tu lis Zero Year, tu vois bien qu'il est en train de tout défoncer et que de toute façon, Year One.
Bah, il réécrit tout, quoi.
Il réécrit tout. Voilà.
Il nous fait l'univers ultimate.
Voilà.
Je
dis, ce Year 100 de Paul Pope, qui est quand même un classique de Batman, mais lui, il fait mieux, il fait Year 200. Donc,
ouais.
Là, c'est ça qui me gêne, c'est que chez Snyder et Batman maintenant, je sais pas, le mec a pris la grosse tête peut-être, mais. Enfin, ou c'est peut-être moi qui le vois comme ça, mais voilà, le mec fait mieux que tout le monde, quoi. C'est, pardonnez le jeu de mots, mais c'est le Superman, quoi, de Batman.
Oui, et sur Superman, par contre, justement.
Mais oui, non, enfin, c'était voilà, le petit jeu
Mais
de
oui, non,
télé,
mais
mais.
bien sûr, non, mais j'ai compris. Mais moi, par contre, je pense que cette histoire fera des petits, entre guillemets, et que Snyder va utiliser ça. Et rappelez-vous, quel est ce mystère là dans le désert, on ne sait pas trop ce que c'est, qu'il est en train de nous placer là dans Batman. Comment ça s'appelle du coup? Zéro-Year?
Zéro hier.
L'espèce de truc un peu bizarre. Moi, je me demande si ça n'a pas un rapport avec cet épisode-là et si cette histoire-là va pas ressurgir très rapidement d'ailleurs dans son travail.
Par contre, parlons du dessin de Sean Murphy sur ce truc-là.
Je trouve
Ah,
ça
c'est
sublime.
Space.
Ah, enfin, moi j'ai trouvé ça superbe.
Moi aussi.
Même si j'ai eu
Ouais.
l'impression de lire The Wake finalement.
C'est vrai, ouais. Ouais,
Déjà avec l'espèce de gros requin, tu sais, je me suis dit, ça y est, The Wake dans Batman, quoi.
Ah ouais, bah il y a
Les
des
doubles
espèces
pages
d'ennemis là, sont sublimes.
Oui, les ennemis sont très what the fuck, hein, c'est clair.
Ouais.
Bah, vu qu'on est dans le futur, après tout, tout est
Ah,
permis.
moi j'ai bien aimé le Batman Mad Max. Je
Ouais.
rêverais de lire une série, enfin en tout cas un arc avec ce Batman Mad Max qui fait du rodéo sur sa bagnole quoi.
Le costume est d'enfer, mais toutes les, enfin, il y a
Après, il y a
vraiment.
des choses qui sont moins drôles. Hein. Batman Mecha, moi, ça m'a pas fait rire personnellement. Ça m'a
Ah si,
gonflé même.
moi j'ai trouvé ça cool.
Mais c'est encore, putain, mais post-Pacific Rim quoi. Il y aura un avant et un après Pacific Rim quoi.
Mais je pense honnêtement que si on n'a pas un jour des histoires avec ces Batman-là, au moins des one-shots, des trucs comme ça, je serais super étonné. Enfin,
Le
moi, ça me
bat.
semble évident
Ouais.
que d'une manière ou d'une autre, tout ça va ressurgir
Ben oui, là je pense
prochainement.
que voilà, on a lancé ça et puis on va attendre les retombées. On fera du fan service par la suite en lançant des annuals ou des one shot
Qui
Elseworlds
nous
sur ces
dit que le
personnages-là.
Qui nous dit que les 52 numéros là de la série à venir, dont j'ai oublié
Non,
le
non,
nom.
ce sera pas ça. C'est sûr que ce
Non,
sera pas ça.
c'est 50 dans le
Bon,
futur,
d'accord,
pas
ont déjà,
autant.
ils ont, non, même ils ont déjà parlé de beaucoup de choses là-dessus et ce sera pas ça, clairement.
En tout cas, il va inspirer pas mal de, je sais pas moi, je pense qu'il y aura pas mal de produits dérivés qui vont être adaptés de ces personnages, genre le Batman
Ah bah les
Transformers,
fameux DLC,
et
hein, les
puis
fameux DLC.
oui.
Voilà.
Puis il y aura surtout pas mal de fanfiction, je crois.
Avec fanfiction, ouais.
Ouais.
Mais en tout cas, dans le cadre de cette anthologie, un petit peu de ce numéro anniversaire, c'est quand même un numéro plaisant. Si on enlève un peu le côté peut-être de Snyder qui essaye
Ah oui, non, mais
de.
après ça, c'est ma vision. Enfin,
Mais
voilà, je vous dis ce que j'ai pensé moi
c'est
quand
cool
j'ai lu
parce qu'on
ça.
a
Mais.
vraiment le passé, le présent, le futur. Et donc, du coup,
Il
ça
y
va
a
vraiment
aussi un
très bien
gros
pour
côté.
pour ces
Il y
numéros.
a aussi un gros côté Morrison, hein, d'ailleurs, dans ce que fait Snyder. Moi, ça me rappelle ce numéro. C'était le numéro 600 de Batman, je crois. Où il nous avait fait une histoire futuriste avec à la fin la vision de plein de Batman différents. Il y avait même un Batman un petit peu comme ça aussi, mécanique, un Batman à la Mad Max. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, quoi.
En tout
Ouais.
cas, un indispensable ce numéro de Detective Comics.
Oui, vraiment très 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 bon. Alors, bien sûr, il vaut plus cher, hein,
On
il
sent
vaut
le
8
vendeur, on
dollars.
sent le vendeur de chez Bruno.
Il est à 8 euros. Ah
oui,
vaut
en plus.
8 dollars, effectivement. En tout cas,
Mais il
avec
les vaut, hein.
les covers régulières, il y a une cover de Craig Capullo et une cover de Frank Miller.
Oui, qui est un
Une
peu une arnaque.
Catwoman.
Bah, c'est un concept inutilisé pour Batman All-Star.
Ouais, mais bon, enfin, ça reste une cover de Frank Miller chez DC, ce qui reste assez
Mais
rare.
je t'invite à regarder d'où part la queue de Catwoman. Tu ne pourras plus voir que ça.
J'hésite,
C'est vrai que c'est très très bizarre. On se
Oh
demande
putain, merde, ça
comment.
y est, maintenant je vois que ça. Putain, tu
Ouais.
chiant, Bruno.
C'est vrai que c'est très très bizarre. Elle est disposée bizarrement et bon, on connaît son passif, hein, comme Black Widow, un passif un peu sombre. Bon, voilà. Hein,
Un
donc
passif prostitute, quoi.
ouais, voilà. Donc à mon avis, elle a appris des choses et notamment à faire tenir dans cette position ce genre d'ustensile.
Très vite, on n'a pas parlé parce qu'il y a aussi des illustrations qui séparent chaque histoire,
Oui, des
des pleines
pin-up.
pages d'artistes, de très bons artistes. On a du Jock, on a
Jim Lee,
du Jim Lee, qui sait qu'on a
du Michael
encore
Allred, hein.
ouais, du Michael Red. Enfin voilà,
Numéro
on a vraiment du
anniversaire.
bon. On a du Kelly Jones. Fuck
Ouais.
it, du Kelly Jones. Enfin
Ouais,
bref.
bah oui.
C'est très sympa aussi, même si ce sont que des splash pages, hein, finalement, juste des espèces de posters. C'est vraiment très joli, ça ponctue bien entre chaque histoire.
Oui,
Vraiment.
puis alors par contre le Kelly Jones justement, je m'arrête dessus. Alors c'est marrant parce qu'il place Azrael, Bane, enfin des personnages qui ont
Bah,
marqué
de
son temps.
l'époque, effectivement.
Mais alors son Robin, est assez dégueu, mais alors ça Harley Quinn, là c'est Rob Liefeld l'a aidé peut-être à la terminer. Je sais pas si vous voyez la
tu sais que quand tu dis Rob Liefeld l'a aidé à terminer, c'est comme si tu disais de quelqu'un qui était terminé à la pisse quand même.
Ouais. Non mais là il y a un gros souci. Si vous voyez cette image comme moi là, il y a vraiment.
Mais non
là...
mais oui, non mais il y a un problème de proportion quoi. il y a des positions absolument. Mais son Batman reste pour moi emblématique du Batman. Gothique, voilà.
Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on sent que peut-être ça fait longtemps qu'il a. Je sais pas ce qu'il fait, hein, je sais pas s'il dessine encore beaucoup, mais. Voilà. Le décor est très bien. Les personnages sont effectivement un peu bizarres. Bref.
Faut aimer le Batman aux oreilles pointues, quoi.
Ouais. Mais en tout cas, ouais, bah, comme vous dites, hein, un numéro indispensable, un numéro qui vaut largement son prix, un vrai numéro anniversaire.
Voilà, un vrai numéro anniversaire. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de vrai numéro anniversaire à ce point, je trouve.
Et puis, numéro Detective Comics 27, il n'y en aura pas deux, hein.
Ben maintenant, si.
Non, mais ouais.
Attendons dans 2 ans quand ils vont relauncher encore la gamme.
Ouais.
Alors. Oh, mais ben voilà, vraiment, là, ils ont fait un gros coup. Je m'attendais quand même un peu à une daube, pour ma part. Après ce coup du Détective 900, où j'étais quand même un petit.
Ouais.
Qui était sympathique, mais bon, voilà. Sans plus. Là, celui-ci, ils sont lâchés, ils se sont fait plaisir. Waouh, DC arrive à nous surprendre en bien. C'est assez rare ces derniers temps.
Mais,
en tout cas, pour ma part.
Ça montre la force de Batman, qui est que tu peux lire Batman n'importe quand, à n'importe quel moment, tu peux piocher dans toutes ces dans ces 75 ans d'aventure et parvenir à lire et à comprendre ce qui se passe, puisque finalement la continuité importe peu, quoi. C'est quasiment le seul personnage comme ça où finalement t'as toujours des histoires à raconter et tu peux en lire de n'importe quelle époque du Batman.
Oui, non mais c'est vrai. Allez, on va passer à la suite. Bon, gros bail, hein, gros bail général.
Oui, gros bail.
Ouais.
On va dire, même si on a fait des coups de cœur solo, on va dire coup de cœur de l'équipe.
Oui, voilà.
Ouais, on peut dire ça. Ouais, non, c'est vraiment bien.
On va continuer avec le Batwing numéro 27. Oui, on parle jamais de Batwing, c'est vrai, mais là, il est tie-in à cette espèce de sorte de crossover qui s'appelle Godtopia. C'est scénarisé par Jimmy Palmiotti et Justin Gray, avec Jason Masters et Scott Collins au dessin. Et donc, on va suivre Batwing dans cette espèce d'univers étrange, complètement halluciné de tout le monde, Godtopia, où le mec va découvrir peu à peu que cet univers est... il y a quelque chose de louche, quoi. Il y a de très jolis effets de style, je trouve, sur les pages. Je ne sais pas si l'un de vous a pu le feuilleter.
Et non.
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 C'est bien dommage. Il y a des jolis effets de style où l'on voit justement osciller Batwing entre réalité et monde fantasmé, ce monde de Godtopia. Visuellement, c'est bien foutu. Maintenant, au niveau de l'histoire, c'était un petit peu ce que je craignais. Alors, je lis pas Batwing du tout. Là, j'ai pris ce numéro vraiment parce que c'était tie-in à Godtopia. Et alors, on est dans ce monde de Godtopia, c'est sûr. Maintenant, il y a quand même quelques intrigues qui continuent avec la suite de Batwing. Hein. Batwing qui avait en plus changé de personnage, hein, qui est maintenant le fils de Lucius Fox, sous le costume.
Bah déjà, c'est plus... Enfin, ça m'intéresse plus.
C'est plus dans Gotham, et puis là c'est pas vraiment dans Gotham.
Ouais.
Bon, l'histoire est sympa, mais si tu veux, ça fait pas forcément avancer le schmilblick de Godtopia. On est sur l'histoire de Batwing, qui se retrouve être tie-in à Godtopia. C'est ce que je craignais... C'est le cas. C'est un petit peu, dommage.
Je vois ce que tu veux dire.
Même si c'est sympa, et du coup, je vais quand même continuer à lire Batwing tant que ce sera Godtopia. On verra par la suite ce que ça va donner. Est-ce que la série sera pas arrêtée, elle non plus. Suite pour Batman Eternal, je me rappelle plus si elle fait partie des séries annulées.
Je crois pas.
Je crois qu'il croit encore au projet, c'est assez étrange.
Je crois que si, moi, justement, donc c'est bizarre parce qu'on a des avis différents. On saura pas, mais par contre, la couverture, c'était cette couverture-là que j'avais vue il y a quelques temps, et je me disais, mais c'est quoi, c'est Batman Beyond? Ah non, c'est Batwing.
Ouais, une très belle cover de Darwin Cook.
Qui fait vraiment penser à Batman Beyond.
Ah oui,
clairement.
Le
costume, là,
complètement.
En plus.
Ouais. Complètement. Donc un épisode sympathique, si vous avez aimé l'épisode de Godtopia, je pense que qu'il y a dans le Détective 27, je pense que vous aimerez celui-ci pour découvrir un petit peu plus sur cette espèce de monde fantasmé. Maintenant, si vous n'avez pas accroché du tout, n'allez pas le voir, ça sert à rien. Donc moi, je vais quand même mettre un petit check-it plus, quoi. J'ai trouvé ça sympathique. On va continuer et terminer notre partie d'essai de cette grosse émission, finalement, avec Earth 2 numéro 19, Benny.
Et donc, la troisième partie de The Dark Age, donc par Tom Taylor et Nicolas Scott au dessin, ainsi que Robson Rocca, d'ailleurs, au dessin également. Toujours cet arc avec ce fameux Superman déviant, souviens-toi, Steve. On va pas refaire la vanne, mais en tout cas toujours un gros côté irrédimable dans cette histoire, d'autant plus que donc le Batman de cette Earth 2 s'est constitué une espèce de petite équipe de résistants, on va dire, et il cherche par tous les moyens de contrer le Superman qui a complètement pété les plombs.
Et c'est très irrédimable quand tu en parles comme ça. Ça ressemble aussi à Unity, hein, qui sort actuellement chez Valiant.
Ça ressemble à Unity, mais plus encore à Irrédimable, pour avoir lu les deux, justement. Enfin, pour avoir lu les trois, mais je veux dire, entre Unity et Irrédimable, je dirais que c'est plus Irrédimable. Parce qu'il y a, ça parle beaucoup aussi de la psychologie du Superman, qu'est-ce qui l'a poussé à devenir fou. Puis il agit aussi comme le personnage de...
Ta phrase était bizarrement construite. Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir fou? Genre, c'est un choix conscient. Quoique...
Je vois trop le mec se lever de son lit, c'est le matin. Aujourd'hui, je choisis de devenir fou. Allez, hop, la tête dans le toaster. C'est dur de repartir après ça.
C'est clair.
Non mais il fait des choses vraiment comme le personnage principal d'Irredeemable, c'est-à-dire que il attaque la Maison Blanche en détruisant la Maison Blanche à coup de l'espèce de merde, j'ai oublié comment ça s'appelle.
Baraka Fett.
Le monolithe là, c'est pas le monolithe.
L'obélisque.
Voilà, c'est ça, exactement. L'obélisque. C'est ça le mot que je cherchais.
Oui, c'est ça.
Exactement. Et je comprends avec le mode
de l'enfer. La région de l'enfer.
Mais voilà, et donc très franchement, c'est vraiment le chaos. Les super-héros sont complètement dépassés. En même temps, Earth 2, c'est aussi un petit peu, je dirais, un univers ultimate de la JSA. Vraiment, la version ultimate de la Justice Society. Et c'est toujours aussi bon, sinon mieux, parce que très franchement, j'adore cette série depuis que c'est Nicolas Scott. Non, par contre, depuis que c'est Tom Taylor, pardon, qui écrit. Et voilà, c'est vraiment excellent. Encore une fois, c'est un titre qui est proche du coup de cœur cette semaine. Il y a beaucoup de bonnes lectures là. Et voilà, ça aurait pu être mon coup de cœur s'il n'y avait pas eu ce All New X-Factor. C'est très 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 bon, avec une bonne tension, un bon suspense, on a vraiment envie de lire la suite. Et voilà.
Bah, c'est une bonne chose, donc un gros bail.
De terminer là-dessus, ouais, un très gros bail.
Allez, on va faire très vite pour la liste des TPB de la semaine.
Ah,
on commence...
attends,
oui,
tu n'as pas parlé du What's New in the New 52.
Bon, rien à dire.
Voilà, d'accord.
Rien à dire. Non, ni en mal, ni en bien. Donc,
c'est une splash page, au fait. Il te parle de la confrontation entre Batman et Superman qu'on n'a pas lu, hein, qui est
dans Batman Superman. Oui, voilà, exactement. Ouais. Mais bon, voilà, on a le mérite d'avoir une nouvelle page qu'on n'avait pas vue. Donc, c'est plutôt bien.
Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris une splash page du numéro et qu'ils ont collé la tête du gars dessus, avec trois bulles. Enfin bon.
Ce serait pas la première fois qu'ils font ça. Rappelle-toi la page avec Green Lantern qu'ils avaient sorti deux semaines de suite, hein, d'ailleurs, qui était la splash page du Green Lantern. Voilà. Mais bon, au moins, c'est une page inédite, c'est pas le redite de ce qu'on a vu encore la semaine dernière et la semaine d'avant et le mois précédent. Donc non, bon, voilà, ça reste de la merde quand même.
T'en avoir fait parler pendant une minute juste pour ça, c'est beau.
Ça reste de la merde, je veux dire, ça prend pas grand-chose, quoi.
Ouais, tout à fait.
Allez, on passe au TPB maintenant et on commence avec du Star Wars chez Dark Horse, Star Wars Omnibus Adventures. Un autre Omnibus Star Wars, on en avait parlé la semaine dernière, cette semaine on sort un autre. C'est au prix de $25 toujours, 456 pages avec des histoires d'un petit peu tout. On a du Luke Skywalker, du Princess Leia, du Darth Vader. On a 6 grosses histoires à l'intérieur de cet Omnibus.
Franchement, pour $25, c'est Noël quand même pour les fans de Star Wars.
Non mais voilà, les omnibus de Dark Horse, de Star Wars, en tout cas ce format-là, sont vraiment peu chers et vous donnent un maximum de lecture. Et en plus, c'est de la couleur, je veux dire, c'est même pas du noir et blanc à ce prix-là. Et je me rends compte que j'avais baissé mon micro vachement et que vous ne disiez plus beaucoup.
Non, si, si, ça va, on t'entend bien.
On t'entendait.
Bah, je vois mes crêtes et c'était pas très, elles étaient très basses. J'avais trop baissé mon micro. Continuons avec du DC maintenant. Batman 66, vous savez, cette série digitale, puis collectée sous format papier, puis maintenant collectée en TPB. Batman 66 de TV Stories. Eh bien, on est dans pas du Batman 66 pur, mais des vieux épisodes de Batman. On va retrouver Batman 53, 73, 121, 140, 169 et 171, ainsi que Detective Comics 230, 346 et 359. Ils ont mis le tag Batman 66 parce que c'est un peu cette ambiance-là, d'accord, même si ce n'est pas purement la série et digitale.
C'est peut-être sorti plus ou moins à l'époque de la série télé.
Ce sont des histoires qui sont sorties entre 1948 et 1966.
Ah oui, ouais, voilà. Donc avant quand même.
Ce sont des histoires qui ont juste été adaptées, qui ont été adaptées ensuite dans la série télé de Batman.
Ah d'accord, ah, c'est pour d'accord, ça. Okay, voilà. C'est ce qui a inspiré. Okay.
Bon, ça vaut 15$, c'est pas très très cher pour du vieux matériel où on retrouverait du Bill Finger, du Bob Kane notamment, hein, puisque c'était les artistes de l'époque. Bon, on va dire pour ceux qui lisent vite, il y a petite tromperie sur la marchandise avec le côté Batman 66, mais on reste vraiment dans la même ambiance.
Et puis c'est peut-être pas plus mal, hein, ils sont peut-être pas perdants en change.
Je vais mettre un joker là-dessus, moi j'ai pas continué cette série.
Ah, oh, le jeu de mots.
Mais oh oui, non, j'ai pas fait exprès. Pardon, j'ai pas fait exprès en plus.
Ah, oh, mais t'excuses pas, quand t'es
bien. Ne t'excuse pas de ta bonne blague, voilà. Ouais. Pour une fois que tu fais une bonne blague.
Ah, oh, salaud, je l'attendais.
Si en plus tu veux t'excuser.
Pire, je l'attendais. Continuons avec Deadman TPB volume 4 pour relire du vieux Deadman. Avec notamment à l'intérieur DC Special Series numéro 8, DC Comics Presents 24. Alors, pas la dernière série en date, hein, celle vachement plus en reculée. Dans
vachement
des temps
beaucoup
immémoriaux. Et Adventure Comics 459 à 466 avec donc le passage de Deadman dans cette série. Vous avez du Bob Anné, du Rick Estrada et du Jim Aparo pour les parties scénaristiques et graphiques. Mes phrases sont improbables. Ça vaut 15$. Chez DC toujours, en tout cas dans la branche Vertigo, mais enfin... Non, pardon, c'était du Wildstorm. Mais je dis n'importe quoi pour cette émission. Pardonnez-moi, je suis debout depuis trop longtemps. C'est Ex Machina qui ressort.
C'est la blague que je pourris tous les temps.
Ex Machina ressort en TPB dans une nouvelle édition qui collecte les épisodes 1 à 11 plus des bonus. Je crois que c'est la même édition que nous sort Urban. Hein.
Probablement.
Oh, le vent!
J'avais coupé mon micro tellement je me marrais comme un con.
C'est une série de Brian Keevogan et Tony Harris au dessin. Très très bonne série. Même si ça sort en français, bah, je la replace parce que c'est une série que j'adore et qui n'est, pour ma part, je trouve pas assez connue. 20$.
C'est en souple.
Vous avez des bonus à l'intérieur. Oui, ça c'est du souple, c'est du TPB.
Des vrais morceaux de bonus.
Toujours chez DC, Demon from the Darkness TPB. C'est la mini-série par Matt Wagner. Donc les épisodes 1 à 4, hein, c'est une série en 4, plus Demon 22 de la série régulière. Ça vaut 15$ pour se replonger un petit peu sur ce personnage de The Demon et accompagner la sortie du Demon Knights TPB volume 3, série que nous n'avons pas en français. Ça vaut 20$ et vous avez les épisodes 13 à 23 de la série Demon Knights, exactement, qui est la dernière partie de la série.
Ouais, série qu'on n'aura donc pas, hein, je pense.
Série de Paul Cornell et Bernard Chang au dessin.
Ouais, série assez particulière, pas forcément dans laquelle on rentre pas forcément si on n'est pas fan un petit peu de tout ce qui est, je dirais, heroic fantasy.
Mais pour moi, le problème, c'est que ça avait été annoncé comme étant un petit peu le passé de l'univers DC. Ça avait été annoncé un petit peu comme ça. Hein, on voyait Demon, etc. Dans le passé. Après, la série avait fait un petit bond dans le temps et s'était rapprochée du temps un peu plus présent, même si elle était toujours placée dans le passé. Mais finalement, il n'en est pas vraiment fait mention dans les autres séries. C'est un petit peu dommage. Pour moi, ils ont raté un peu le coche, je pense. Mais bon, ce ne sera pas la première fois que DC se plante, honnêtement. Avec son New 52. On va presque terminer notre partie d'essai, parce qu'il y en a plein cette semaine chez DC qui sortent, contrairement à chez Marvel. On a Green Lantern Sector 28-14 TPB volume 3 avec les épisodes 194 à 200 de Green Lantern, époque où la série s'apprêtait à changer de titre et devenir de Green Lantern passer à Green Lantern Corps. Ça vaut 17$. C'est du Steve Englehart au scénario et on retrouve aussi du Walter Simonson au dessin. Quand même.
Bonne équipe.
Swamp Thing par Brian Keevogan.
Ah, c'est cool.
Donc le TPB que va acheter Bunny. Il va s'empresser d'aller l'acheter.
Je sais, franchement, je ne savais même pas qu'il avait fait du Swamp Thing. Mais pourquoi pas? Enfin, si je dois lire un truc de Brian K. Vaughan, autant que ce soit un personnage que j'aime bien, qui
Bah,
m'intéresse, donc
j'ai
Swamp
envie de te
Thing.
dire, lis plutôt Ex Machina.
Ouais, mais justement, j'allais dire, justement, c'est pas l'une de ses créations, Swamp Thing, donc ça m'intéresse plus qu'une de ses créations. Mais bon.
Ah, c'était la série, série assez courte, hein, série en 20 épisodes, hein, qui a été publiée entre 2000 et 2001. Là, vous avez les 10 premiers épisodes dans ce TPB. C'est au prix de 20 dollars.
Ouais, c'est
Attends,
vachement
Ex Machina,
centré
c'est
sur...
aussi Brian K. Vaughan? Ah
Ouais.
bah oui, t'as raison.
C'est vachement centré sur la fille de Swamp Thing. C'est presque quasiment que sur elle.
On termine enfin DC avec Terra Obscura, Smash of Two Worlds, qui sort en TPB, 25 dollars. Terra Obscura, donc tout cet univers avec notamment Tom Strong, c'est écrit par Alan Moore avec des sublimes, sublimes, sublimes dessins de Yannick Paquette. Vous avez la mini-série en 6 collectée dans ce TPB.
Paqueté, on dit. Hein.
Non,
C'est le mec qui veut faire chier. Non, non, bien sûr, non.
le salaud dit Paquiti. Quoi? Allez, on termine par Marvel, dernier TPB de la semaine. Fantastic Four Inhumans TPB, ça s'appelle Atlantis Rising. Nom bien connu des lecteurs des années 90 avec cet immense crossover que, pour ma part, je n'ai jamais compris.
Bon, c'était pas Atlantis Rising, c'était Atlantis Attacks.
Non, on a eu les deux.
Ah bon? D'ailleurs, bah moi je me souviens surtout d'Atlantis Attacks. Peut-être parce que c'était, il y avait des
Atlantis
tie-ins de
Attacks,
Spider-Man.
c'était dans les annuals, au début des années 90, non,
Ouais,
fin des
ça
années
je m'en
80.
rappelle.
Mais on a eu
Mais
Atlantis
Atlantis.
Rising. Et
Ah.
Atlantis Rising, eh bien, tout est collecté dans ce TPB qui vaut quand même 40 dollars parce qu'il y a beaucoup d'épisodes.
Ah mais
Vous
je
avez
crois qu'on l'a eu. Oui, parce que je crois
sur
qu'on l'a eu en France.
la fin de Semic.
Oui, avec, ça s'appelle Atlantis. Ça s'appelait, je crois, Atlantis émergé, je crois.
Peut-être, oui,
Ouais,
c'était ça.
voilà. Là, effectivement, ça me dit quelque chose.
Bonne traduction.
Alors, on a à l'intérieur Namor 60 à 62, les Fantastic Four Atlantis Rising 1 et 2, hein, c'était l'époque où on commençait avec le one-shot, des choses qu'on fait toujours d'ailleurs, hein, on commence avec un one-shot qui porte le titre du crossover et on termine avec un one-shot qui porte le titre du crossover, l'autre mode étant faire des Alpha et des Omega. Fantastic Four 8 et 9, Fantastic Four 401, 402 et Fantastic Four Unlimited numéro 11. Voilà. Et enfin, franchement, ce crossover, j'en ai quasiment aucun souvenir et voilà, je crois que c'était quand même pas très bon pour en avoir aussi peu de souvenirs.
Ouais, moi je l'ai pas lu à l'époque, mais je me rappelle des pubs effectivement, avec Atlantis émergé.
Donc ça vaut 40 dollars si vous avez
Émergé!
envie de redécouvrir un peu les années 90, voir ce qu'on faisait de bon et de moins bon. C'est tout pour cette semaine. On aura bien rigolé surtout, j'ai
Ah
l'impression.
oui, non, c'était cool. Il y avait de
Surtout,
bonnes
je
choses.
pense. Non, c'est le mot, c'est surtout. On n'aura rien dit de bien, rien dit d'intéressant, mais on aura bien rigolé.
Parce qu'on devait dire des trucs intéressants au départ.
Non, non, je déconne.
C'était
Ça
une
se saurait.
émission sur le thème de la guacamole aussi.
Ah non, quelle horreur. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour votre prochaine dose de review comics. D'ici là, vous nous retrouvez sur Facebook,
Et le
sur
guacamole.
Twitter. Pardon, at Comic City. Et vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast at comiccity.fr. Ne nous demandez pas pour le guacamole, on pourra pas l'expliquer à
Surtout pas.
l'antenne. C'est vraiment
Surtout
trop dégueulasse. Voilà, oui, vous retrouvez tous les anciens épisodes sur iTunes et sur le site, je crois que je l'ai déjà dit. Je me suis peut-être répété, c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine, ça aussi, je l'ai déjà dit.
Ouais.
Et je vous dis très bonne fin de soirée, messieurs, et à bientôt.
Et
Comme
oui,
d'habitude, portez-vous bien.
à bientôt, portez-vous bien.
Et venez prendre du guacamole sur Comic City.